Et bonjour à tous, la caméra est allumée, le micro aussi, ah, c'est pas mal ça, hey, quelques notes, pas mal ça, on va se caler ça pour une petite pause café tout à l'heure, éventuelle pause café, hop, petit réglage du dimanche matin, un petit retour en son en plus, entre temps il y a eu l'hebdo Étienne vendredi soir et du coup j'ai déréglé tous mes... Setup. Tiens, regardez, on va zoomer un petit peu cette image. Excusez-moi, on est comme à la maison. Un tout petit coup de zoom. Voilà. Voilà. C'est fait maison, c'est artisanal, c'est magnifique. Voilà. Un petit peu plus de présence. Déjà que je suis pas très très grand. Alors si en plus la caméra est loin. Ça va vous? Bon dimanche les amis. Ah, vous m'avez manqué. Deux semaines très chargées en... d'enregistrement de questions pour un champion, du coup j'ai pas pu beaucoup streamer et je m'en veux. Bonne et mauvaise nouvelle. Bonne, bonne nouvelle, là je suis tranquille cette semaine. Aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, matinée Étienne sûr, peut-être même vendredi. Vendredi soir, hebdo Étienne, bien sûr, avec une magnifique line-up. Je vais vous annoncer la fiche dans un instant. En revanche, semaine prochaine, Vacances. Ouais, je pars en vacances avec ma petite famille. Et donc, après, là, on part sur une semaine très, 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 très chargée en Twitch. On va se régaler. La semaine d'après, c'est off, totalement off. Et je n'emmène pas mon setup en vacances, contrairement à d'habitude. On est au cœur de l'année, là, au mois de février. Les voix, comme dit The Twan, la voix est un peu cassée. Les petits virus sont là. Vous aussi, février, c'est compliqué? On est au milieu, hein? Tiens, faisons la moitié d'ailleurs. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 6 mois. Ouais, c'est ça, on est à 5 mois et demi là, depuis la rentrée. Et après, on enchaîne. Donc, mars, avril, mai, juin, 4, quoi. On a passé la moitié. Et donc, c'est le moment où il faut un petit peu, pas s'économiser, mais prendre en compte le fait que c'est un peu une course d'endurance, la vie et la saison aussi. Voilà. Donc, petite semaine de vacances en famille, voilà. Et puis, après, une nouvelle semaine de stream intensive. Et après, il y a question pour le champion qui va revenir. Voilà. Ah, je suis heureux de vous retrouver. Je regarde le petit réglage. Oui, ça va à peu près, ouais. Voilà. Donc, là, on est sur 6-7 streams d'ici les vacances. Ça va être très, très sympa. Vous allez bien? Vous allez bien? Randy Random, merci pour ce... Waouh, 18e mois d'abonnement, ça fait beaucoup quand même, merci à toi. Cory Duck, merci pour le 2e mois. Lost in a Maze, merci pour le 15e mois d'abonnement. Il y a des... Oh, je suis allé voir Poulpe en spectacle hier, Monsieur Poulpe, au Palais des Glaces à Paris, c'était super. Ouais, je vous recommande. Et je sais pas si j'ai le droit de le dire. Bref, ça marche très très bien. Je n'en dis pas plus. Ça marche très très bien. Je ferai un petit tweet là-dessus aujourd'hui. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, ou de passage pour les vacances... Je crois que c'est le jeudi, vendredi, samedi, au Palais des Glaces à Paris. Et c'est bien. Je ferai un petit tweet là-dessus. Monsieur Poulpierre. Petit spectacle en amoureux. Pas avec Poulpe, hein, avec Hélène. Même si on est allé saluer Poulpi dans les coulisses après. Et un dîner après, c'était une super soirée. Merci Founty, à la fois pour le gentil message et pour le 14e mois d'abonnement. À l'instant. Allez, je remonte un petit peu dans le chat pour prendre de vos nouvelles. Qu'est-ce que ça donne? Je vois des bonjours, je vois des hello, je vois des petits virus. C'est normal, c'est l'hiver. J'ai vu de la bronchite tout à l'heure. Je vois un bonjour des Yvelines. Ok. Je vois que certains ont écouté attentivement l'hebdo Étienne de vendredi avec Kayane, avec Laure Vallée, avec Zach. Voilà. Et mon rêve secret, qui n'est pas très secret, parce que j'en parle quasiment toutes les semaines, d'interviewer un extraterrestre. Je veux être le journaliste qui fait la jonction entre l'humanité telle qu'on la connaît et une éventuelle visite alien, à supposer qu'il ne soit pas déjà là, bien sûr. On connaît tous dans notre entourage des gens qui sont sans doute en fait des extraterrestres infiltrés, bien sûr. J'ai perdu un pari, c'est un joli pseudo. Et merci pour le 4e abonnement. Merci beaucoup. Oui, voix légèrement cassée, des petits virus de rien du tout, voilà. Le corps est bien. Poulpe était, je crois qu'il a mis un petit message sur Insta, il est très malade, voilà, et c'est beau, hein. Hier, il a tenu la scène 1h15, voilà, donc fiévreux, au bout de sa vie, chargé de Doliprane, il assure le spectacle, c'était assez impressionnant, voilà. Hélène a bien aimé aussi. Salut Gaz, et merci pour le... Waouh, ça fait beaucoup quand même. Hein. 17e mois d'abonnement. Je vois un bonjour du Jura Suisse. Salut Viking. Je vois le 120-0, nous dit MMG7F. Ça, c'est une allusion à... Comment dire, Kayane, donc joueuse de jeux vidéo, championne e-sport, notamment si j'ai bien tout compris, parce que tout ça n'est pas encore très clair pour moi, de jeux de combat et notamment Street Fighter. Et comme j'ai le projet de m'investir un peu plus, comment dire, dans la découverte de ce bel univers qu'est le monde du jeu vidéo à partir de septembre, pas se presser non plus, parce que c'est un projet à long terme, eh bien, on a prévu de recevoir Kayane à la maison pour un petit pour qu'elle m'explique les arcanes des combats, des jeux de baston sur voilà, en jeu vidéo à la rentrée. Flouda, merci pour le 18e mois d'abonnement. C'est gentil. Ça fait beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Oh, c'est mignon. Barnet nous dit, j'ai montré à ma grand-mère l'hebdo. Elle m'a dit, est-ce que vu que tu peux lui écrire, dis-lui qu'il parle plus fort pour question pour un champion. Ouais, je sais, ouais, je sais. Oh, bon. Ouais. Je pourrais déclamer un peu plus. Je ne suis pas tellement dans un style de présentation de déclamation. Je ne déclame pas beaucoup. Voilà. Autant dire que parfois je parle un petit peu dans ma barbe, en fait. Et je m'applique pourtant. Je peux vous dire que je m'applique à parler. Alors, un, le plus distinctement possible dans Question pour un champion, pas seulement pour les téléspectateurs les plus âgés, mais aussi pour que tout le monde à la maison et sur le plateau puisse bien entendre les questions et jouer dans les meilleures conditions. Et puis, que ma voix porte le plus, même si ouais, je suis pas tellement dans la déclamation. Mais dis à ta grand-mère que je vais entendre ce conseil et que je vais encore plus m'appliquer. Ça, c'est triste. Il y a Ellie qui nous dit, dans ma ville natale, Léognan, la maison de la presse a fermé, les gérants sont partis à la retraite. Et ils n'ont trouvé personne pour reprendre et termine pour reprendre voilà et à terminer il manque un petit plus de journaux dans une ville de 10 000 habitants. Ça, c'est super triste. Alors évidemment aujourd'hui on peut télécharger quasiment tous les journaux, enfin, on peut les télécharger tous sur internet, sur la tablette notamment, c'est bien pratique, mais c'est vrai que c'est un peu triste de voir les kiosques ou les boutiques de presse fermées, c'est sûr. J'ai l'air fatigué, me dit Matt, qui doit pas venir tous les jours. Parce qu'en fait, j'ai toujours cette tête-là, en fait, fatiguée. D'ailleurs, on va encore zoomer. Excusez-moi, ce cadre ne me plaît pas, je suis un peu maniaque. Non pas que j'aurais l'air moins fatigué en plus gros, hein. Vous avez vu, c'est hyper facile à régler un setup, hein. On se pense par là, on se pense par-ci. Non, c'est ma tête normale, je suis au bout de ma vie, hein. Quelle idée d'avoir trois boulots aussi, hein. Et de dormir pas beaucoup. Voilà. Un jour, je me reposerai. Un jour, je me reposerai. Oui, c'est vrai, le giganto, Julien, il déclamait plus. Bon, toi, tu dis crier. Julien criait plus, dis-tu. Bon, je pense que Julien déclamait plus. On parle de Julien Lepers. C'était l'animateur de questions pour un champion avant, donc il y a 7-8 ans. Mais c'est vrai que c'est moins mon style. Es-tu en vacances la semaine prochaine? Oui, Zola Rugo, oui, et j'en suis très heureux d'ailleurs de passer du temps avec ma famille et je vous le souhaite aussi. Oui, la voix un peu d'outre-tombe. Alors c'est, elle est, Mirette, cette voix d'outre-tombe, elle est presque claire et très belle par rapport à quand je me suis levé samedi matin, au lendemain de l'hebdo Étienne. J'espère que vous avez apprécié. J'avais une voix vraiment d'outre-tombe. Voilà. Enfin, c'était très qui venait de loin, mais d'outre-tombe, oui. Vraiment, elle venait de loin, en dessous le ventre, je sais pas, très bizarre. C'était pas mal, j'étais assez fan d'ailleurs. Et pas vraiment malade d'ailleurs, juste cette voix bizarre. Ouais. Oh. Je vois un compte Twitch que je connais très bien, qui s'appelle Malo, fan de Pokémon, qui vient d'offrir un abonnement à la communauté. Ça veut dire que Malo, donc mon grand, hein, qui a 6 ans, vient de vous offrir un sub. Voilà, Malo, merci. Est-ce qu'on peut applaudir tous ensemble Malo, qui vient peut-être avec l'aide de sa maman Hélène, puisqu'il n'a pas encore les commandes de la CB, de la carte familiale. Malo vient d'offrir un abonnement à la communauté. Malo, Hélène et Solal, qui est peut-être dans le coup aussi. Merci à tous. C'est trop, trop mignon. Merci Clément Polito pour le 11e mois. Humi Isatis, merci pour le 2e mois. Trop mignon. Trop chou. Du coup, dernière matinale avant une semaine. Ouais. Du coup, je serai en matinale de France Info la semaine prochaine. Et en stream tous les matins. Et puis après, une semaine de vacances. Voilà. Et puis après, une semaine de stream. D'autant plus intense que je ne serai pas à France Info. Je prends 15 jours de stop. Et donc, la semaine d'après les vacances, elle sera très, 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 très riche en stream. Voilà. La tourte 7, Samuel, quelque chose me dit que tu vas pas tarder à lâcher une de tes fonctions sur trois. Donc, on rappelle, question pour un champion, France Info, Twitch. Mais pas Twitch, bien évidemment, dis-tu. On ne sait pas. On ne sait pas. 1. Le suspense est intolérable. Le suspense est intolérable. Poulpe fait une blague là-dessus sur le suspense, c'est intolérable dans son spectacle. Faut pas que je vous raconte tout. Puis surtout, je suis incapable de vous le faire vivre de façon aussi drôle que lui. Mais il fait une blague sur genre Régis qui a super mal au dos à un moment dans son spectacle. Donc c'est un personnage qui s'appelle Régis ou je sais plus comment. Il a dit: oh mais Régis, mais qu'est-ce que tu as, Régis, qu'est-ce qui se passe, mais qu'as-tu Régis? Faut imaginer Poulpe qui fait ça. Mais qu'as-tu Régis? Oh, j'ai super mal au dos. Parce que j'ai essayé de retenir le suspense qui est intolérable. Voilà, voilà, c'est Poulpe pendant 1h15. Et moi, je suis très 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 client. Donc on ne sait pas, on ne sait pas. Le suspense est intolérable. D'ailleurs, Régis s'est cassé le dos là-dessus. On ne sait pas, on ne sait pas. Un, si je ne vais pas continuer à cumuler comme ça 3 emplois parce que tout me plaît et j'ai beaucoup de plaisir dans tout. 2, si jamais j'arrête quelque chose pour dormir un peu plus, passer plus de temps avec ma famille, reprendre le sport et arrêter que mon ventre pousse centimètre après centimètre. Toutes les semaines, je le vois, il est en train, voilà, littéralement comme le blob. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ce vieux film fantastique. Mon ventre est en train de prendre ses aises. Voilà, c'est impossible. Il faut que je reprenne le travail. Donc, à supposer que j'arrête, voilà, lapsus. Vous voyez le lapsus ? Il faut que je reprenne le travail. Il faut que je reprenne le sport. Donc, à supposer que j'arrête un de mes 3 jobs pour dormir plus, faire du sport, passer du temps avec ma famille, revoir mes amis, tout ça, lequel de ces jobs arrêter, ça c'est impossible à dire aujourd'hui, bien sûr. Merci Scoobidur pour le 14e mois d'abonnement et Warscope pour le 9e mois. C'est adorable. Impossible, impossible. Comme dit Régis, qui s'est cassé le dos, le suspense est intolérable. Je vois un salut Loupiote, un bonjour soir depuis le Japon. Oui, c'est vrai ça. Ah oui, vous avez raison. Malo n'est même pas VIP sur ma chaîne. Je crois que c'est Malo. Je le mets. Fan de Pokémon. Malo, fan de Pokémon, c'est le pseudo de mon petit garçon d'amour. Et qui maintenant, normalement, va être VIP. Oui, très bonne remarque. Très bonne remarque. Regardez, on a vu un bonjour du Japon, je vois un bonjour d'Australie. Salut Gabriel. Donc bonsoir sans doute pour toi, puisque on est totalement inversé. J'ai vu Monsieur Poulpe sur France Info, me dit Cunilingus, qui est un pseudo intéressant. Moi aussi je l'ai vu. Voilà, il était le pauvre, il était au bout de sa vie. Hier matin, alors qu'il était vraiment hyper fiévreux, ça allait pas fort. Hein. Il était invité de la matinale de France Info, là où je travaille, mais le week-end, donc là où quand je travaille pas. Quelle idée aussi. Et le pauvre, il donnait tout ce qu'il avait, mais tu sentais qu'il était... C'était tellement dur. Tellement dur. Alors, moins travailler pour faire du sport ou pour jouer aux jeux vidéo? Bonne question de Nuno. Non, il faut absolument que je reprenne le sport. Ce ventre, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. J'ai jamais eu du ventre comme ça, quoi. Non, c'est pas possible, pas possible. Je suis encore jeune, et je pourrais encore, ce n'est plus le cas, être svelte. Donc là, il faut faire quelque chose, quoi. XMoscoX dit, il faut arrêter le travail qui paie le moins. Non, parce que l'argent n'est pas le seul critère. Donc, c'est un critère parmi plein de critères. Mais ça ne peut pas être le seul critère, bien sûr. Sinon, tu finis par faire, à la fin de ta vie, un boulot qui te paye bien, mais que tu détestes, si l'argent est le seul critère. Donc, c'est un critère, Il faut être honnête, mais ça n'est pas le seul critère. Voilà. Si je devais arrêter le. Si je devais arrêter le job qui me rémunère le moins, j'arrêterais Twitch. Et il n'est pas du tout certain que j'arrête Twitch. Donc ça peut pas être le seul critère, bien sûr. Il y a Claire Echou qui dit que il ou elle était hier au spectacle de Poulpe. Ok. Donc tu as entendu, et j'étais très fier qu'à la fin du spectacle, Monsieur Poulpi m'a fait un petit coucou, qui m'a fait bien plaisir. J'étais trop fier. Trop fier. Trop fier. Moi, j'ai bien aimé. Tu es svelte, Samuel? Non, non, je suis svelte parce que le cadrage, il s'arrête là. Voilà. Voilà. J'ai plus de ventre que tous, vous tous réunis. Merci Targus98 pour le deuxième mois d'abonnement. Merci Cartano35 pour les bits. Merci Rimec pour le huitième mois d'abonnement. Et pour le message, Nicolas MRSN, merci pour ton Prime. Scooby-Dur, je sais plus si je t'ai remercié, mais comme je kiffe ton pseudo, re pour le 14e mois. Allez, je vous lis. On va faire un petit sommaire, on y va. Arrête la famille, ça paye pas, voilà. Si vaut d'une 64, voilà. C'est vrai que la famille, ça rapporte pas trop de sous. Prêt? On se fait un petit sommaire, je vous dis ce qu'il y a dans l'actu ce matin, ça vous va? Let's go. Minos me dit à propos du ventre. Pas mal ça, c'est un côté un peu rassurant. Comme disait un prof à l'époque, c'est pas du ventre, c'est de l'expérience. Ok, j'ai de plus en plus d'expérience. J'ai de plus en plus d'expérience. Salut Alexandra. Alexandra me dit go. Go. Kali dit, tu vas annoncer quand ce que tu vas arrêter? Je sais pas parce que j'ai pas pris la décision encore. Mais vous serez les premiers au courant, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on fait un petit go? Est-ce qu'on se fait un petit sommaire? Est-ce que je vous dis ce qu'il y a dans les journaux de ce matin? Ça me fait penser que j'ai oublié de télécharger l'équipe. Bon, on va mettre ça sur le compte de la fièvre. Go? C'est du go? C'est du go? Go, go? Go? Let's go? On y va? C'est parti? Ok. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine parce qu'on arrive dans quelques jours, je crois que c'est le 24 février. À ce triste anniversaire, un an de guerre en Ukraine. On parle pas mal de la réforme des retraites, puisque le débat à l'Assemblée, dans les conditions que vous savez, Jean Massier s'est régalé d'ailleurs sur sa chaîne Twitch. Le débat à l'Assemblée est terminé, ça part au Sénat. Et on parle de deux, trois autres petites choses. Je vous montre. Paf! Petit sommaire, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, je vous dis ce qu'il y a dans les journaux ce matin. Et ouais, c'est vendredi prochain. Ouais, exactement. Un an de guerre en Ukraine, vendredi prochain, ça fera un an. On sera le 24, exactement. Je vois que vous êtes sur l'info. Je remercie Lionel P2 pour ce 10e mois d'abonnement. Voici ici, dans vos journaux ce matin, petit sommaire. Quelle résistance de l'Ukraine, écrit Page. Tout le monde pensait que le pays tomberait en quelques semaines. On s'est habitué à cette résistance de l'Ukraine, mais tu as tellement raison. Page, à l'époque, tout le monde pensait, à commencer par Moscou et Poutine, que l'Ukraine tomberait en quelques jours, 2, 3 semaines maximum. Et à l'instant, dans le chat, Siming écrit, j'espère qu'on n'aura pas à fêter plusieurs fois à cet anniversaire. Tu as bien raison. Ukraine, c'est donc la une du Parisien dimanche ce matin. Ukraine, un an de résistance. Alors, le Parisien dimanche, c'est intéressant parce que il y a un petit résumé express qui est plutôt bien fait de ces 12 mois de conflit en 5 points. Voilà. Parce que un an de conflit, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et en 5 étapes clés, le Parisien nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant un an. C'est plutôt bien fait. Et puis, il y a aussi un sondage qui n'est pas inintéressant non plus sur ce qu'en pensent les Français. Voilà. Est-ce qu'ils soutiennent l'Ukraine? Est-ce qu'ils soutiennent l'aide d'un pays comme la France, par exemple, sur un plan économique et militaire? Voilà. Est-ce qu'ils sont inquiets? Si oui, quelle est leur inquiétude? Le sondage est plutôt intéressant. Voilà. On regardera ça dans le Parisien. Le Parisien dimanche. J'étais pas sûr de vous en parler, parce que je vous en avais déjà parlé, mais l'article est bien fait. Il est signé Benjamin Meffre dans le Parisien. Du coup, prime à la qualité de l'article. La fin de Salto, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains avaient rêvé d'un Netflix à la française, voilà, pour résister aux plateformes américaines, les Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. Ronan écrit, on savait tous que ça allait être un fiasco. Alors écoute, je sais pas si tout le monde le savait, mais en tout cas, c'est raté. Voilà, totalement raté, d'ailleurs, c'est terminé. Et les raisons du bide. l'histoire d'un fiasco, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est plutôt bien raconté par Benjamin Meffre dans Le Parisien. Petit horoscope tout à l'heure, bien sûr. Pour ceux qui seront avec moi, c'est le jeu de l'horoscope. Palmade. À la une du journal du dimanche. Donc, l'affaire Palmade, bon, on en a parlé au tout début, quand l'accident venait de se produire. Révélation dans l'affaire Palmade, vous savez quoi? Je m'en fous. M'en fous. Là, on est dans le côté fait divers. Je m'explique pour que vous me compreniez bien. Un fait divers, donc là, accident de la route avec. Présomption de. Non, c'est même sûr, c'est sûr. Avec prise de drogue, etc. Bon, ça arrive sans arrêt en France, alcool, drogue, voilà. Le fait divers, en soi, il n'a aucun intérêt si il nous dit pas autre chose de la société, dans le monde dans lequel on vit, et si il n'y a pas des leçons à en tirer. Voilà. Nous, on en a parlé très, 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 très tôt. Il y a Ronan qui dit, t'as raison, c'est un fait divers, sauf que c'est une personne publique, donc ça fait parler Samuel. Oui, mais moi je m'en fous, hein, bien sûr, le fait que ce soit une personne publique. En fait, ce qui est intéressant, c'est quelles leçons en tirer. Est-ce que de ce drame, c'est catastrophique, hein, ce qui vient de se passer, pour les occupants de la voiture d'en face, là, de ce drame qui vient de se passer, est-ce qu'on a une leçon à tirer au niveau sociétal, au niveau de notre pays, au niveau des comportements individuels, au niveau de l'évolution de la loi. Voilà. Et ça c'est intéressant. De savoir si, voilà, en 2021, le comédien et un de ses passagers avaient déjà été impliqués dans une affaire de stupéfiants, est-ce qu'ils se connaissaient, est-ce que, comme je l'ai lu sur Internet, là, Pierre Palmade avait insisté pour prendre le volant. Bon, ça c'est du fait divers. Ça vous intéresse, tout est sur Internet, tout est dans la presse, très très bien. Non, ce qui est intéressant, c'est quelles leçons à en tirer. Donc, par exemple, là, on a un ministre de l'Intérieur qui dit je propose le retrait des 12 points de permis si jamais il y a drogue au volant. Voilà. Ça, c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est une bonne décision d'ailleurs. Mais c'est intéressant. On a un gouvernement qui dit bon, ben, de cet accident, tirons-en une nouvelle règle. Drogue au volant, plus de permis. Tiens, c'est intéressant comme débat. Parce que pour l'alcool, c'est pas comme ça. L'alcool, c'est gradué, c'est en dessous de 0,8 telle sanction, au-dessus de 0,8 telle sanction, on vous le retire provisoirement. Et pour se voir annuler totalement un permis, hein, il faut vraiment quelque chose de gravissime, de la récidive et tout. Voilà. Alors c'est intéressant. Là, et là, il y aurait une nouvelle règle pour la prise de drogue. Sachant que, en termes de mesures, aujourd'hui, on ne sait pas. Les forces de l'ordre ne savent pas mesurer exactement la quantité de drogue prise. Hein, les tests sont très très flous. Et donc, ça pose plein de questions. Ça, on va lire ça par contre. Ça, on va lire ça. Je vous lis pas encore parce qu'on est dans le sommaire, mais je vois plein de réactions. Ouais. Un petit peu de conflit en Ukraine avec le JDD aussi. Avec une interview qui a fait beaucoup parler d'elle, qui était vendredi, mais on n'a pas streamé depuis, du président Macron sur sa position dans ce conflit. C'est un entretien qui a été accordé au Journal du Dimanche, mais c'était vendredi, au Figaro et à France Inter. Voilà. Et donc le JDD y revient et dit notamment qu'il ne veut pas écraser la Russie, Macron. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il faut rentrer dans le détail des mots parce qu'évidemment, c'est important. Ça pose. La question de savoir comment sortir de cette guerre. Comment on sort, personne n'a la réponse, hein, mais certains ont des idées, comment on sort de cette guerre. Voilà, donc on parlera de ça avec le JDD. La une du Monde nous permet, merci, dernière édition du Monde, de revenir sur la fin du débat à l'Assemblée sur les retraites, puisque maintenant c'est parti au Sénat. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette semaine de débat à l'Assemblée? Est-ce que ça s'est bien passé? Je spoil, non. Est-ce que ça a redoré l'image de l'Assemblée? Je spoil, pas trop. Est-ce que ça a redoré l'image du politique auprès des Français, ce qui s'est passé cette semaine? Je spoil, pas trop. Est-ce que ça peut profiter aux partis les plus extrémistes, je spoil, oui, plutôt. C'est pas terrible ce qui s'est passé cette semaine. On en parlera. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous serez d'un autre avis. On en parlera avec Le Monde. Le débat s'achève sans vote. Voilà. Au final, il y a eu zéro vote, hein, sur la loi. Et dans le chaos. Voilà. Et puis une autre question qui est posée dans le monde qui est intéressante sur la réforme des retraites, c'est et la rue maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? On a toujours une mobilisation assez forte dans la rue, hein, des centaines de milliers, des millions de personnes. On a une nouvelle journée d'action le 7 mars qui s'annonce très très forte avec des syndicats qui veulent, je les cite, mettre le pays à l'arrêt. Et on a un gouvernement en face qui semble bien déterminé à ne pas reculer. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est opposant à la réforme des retraites? Qu'est-ce qu'on fait quand on est manifestant, quand on est syndicat? Est-ce que la solution, c'est la radicalisation? C'est la question que pose Le Monde. Voilà, avec ce constat que, par exemple, si les gilets jaunes ont obtenu des petites choses, pensent certains, bah parce que c'était par certains aspects un mouvement radical, et que peut-être certains vont être tentés, je parle des opposants à la réforme des retraites, eh bien de radicaliser leur action pour se faire entendre et obtenir des choses, si ce n'est le recul du gouvernement. Comme je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes ce matin, mais que j'en avais pas assez, je suis allé retourner voir un article du Parisien de samedi, qui est la une du Parisien, sur les faussaires de l'histoire. Je trouve ça vachement intéressant. Réseaux sociaux, les ados se précipitent sur YouTube, sur TikTok pour réviser en vidéo, notamment l'histoire, hein. Ce qui est plutôt cool en fait, hein, se servir des outils numériques pour réviser. Mais le problème, c'est que certains comptes à succès déforment les faits historiques par incompétence. Bon, c'est pas très bien fait, il y a des approximations. Par idéologie. Voilà, certains comptes proches de certains courants de pensée politique, voilà, qui volontairement, eh bien, modifient un petit peu le regard sur certains événements historiques. Le problème, c'est que les jeunes apprennent l'histoire avec ça. Ou par complotisme. Voilà. Donc là encore, comme en matière d'information, eh bien, quand on va chercher des sources de culture, d'histoire sur Internet, eh bien, il faut trier, il faut savoir trier, et en fait, il faut apprendre à vérifier comment une source peut être qualifiée de qualité ou pas. Ça marche pour l'info, ça marche aussi pour l'histoire. C'est pas mal ça, regardez. Gare aux pseudo-historiens sur les réseaux sociaux. Voilà pour ce matin. Voilà. Je vais peut-être louper des choses. D'ailleurs, je vais me moucher un coup, puis je vais chercher un mouchoir. Je vais chercher un mouchoir pour moucher parce que j'ai un petit truc. Et pendant que je cherche un mouchoir, dites-moi s'il n'y a pas des trucs dans l'actu que vous avez vu et que j'ai zappé et qui vous semblerait important. Ok? J'arrive. Je vous laisse en bonne compagnie avec le néon. Ok, cool. Je pense que j'ai l'impression que j'ai la moitié de mon corps qui est sorti de mon nez. C'est super bizarre. Voilà, nez un peu rouge. Ok. Je suis en pleine forme. Je remercie Lama Magique pour ce deuxième mois d'abonnement. Lionel P2 pour le dixième mois. Targus 98 pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Kertano 35, merci encore pour les bits. Alors, qu'est-ce qu'on aura oublié? Oui, Aurélien Pradé, j'ai vu ça, ouais. Aurélien Pradier viré de la tête de LR par Ixiotti. Ouais, j'ai lu deux, trois articles là-dessus. Ouais, j'ai beaucoup hésité à vous en parler. En vrai, ouais, on est vraiment dans la politique politicienne du règlement de compte entre bons hommes. Ouais. Peut-être que je vous en reparlerai demain matin. Mais en vrai, non, ça c'est. C'est le genre d'histoire qui, à mon avis, font plus de mal à la politique que de bien, quoi. Donc, ouais, écoute, ouais. Franchement, j'ai vu Skybreaker, j'ai vu, mais pour l'instant, non. Vous êtes plusieurs à m'en parler volontairement. Ouais, il y a des histoires comme ça, ouais, volontairement, franchement, c'est vraiment de la politique politicienne. Bon, en gros, voilà, responsable de LR, Aurélien Pradier, qui est pas d'accord avec une certaine ligne incarnée par Éric Ciotti sur la réforme des retraites, il vient de se faire dézinguer, là. Il vient de se faire sortir de l'organigramme du parti. Oh non, non, ça. Peut-être demain, mais c'était. Franchement, je me suis dit, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous apprend? Bon, voilà. Concours de. Pour être poli, concours d'ego, quoi. Hein? Concours d'ambition, on va dire, pour être poli, quoi. Ouais, non, franchement, non. Autre chose, vous voyez autre chose? Salut, je voulais te dire que grâce à toi, ma maman connaît Twitch, t'es génial. Merci et bisous à ta maman. JB, JB, J Polo. Manus35, merci pour le 10e mois. Je voulais jouer un petit peu d'actu sport. Ouais, j'ai rien vu d'exceptionnel. Hein, j'ai rien vu d'exceptionnel sur le sport. Voilà, mis à part l'actu de Ligue 1, tout ça. Voilà. Comme ce stream, je vous mets des infos exceptionnelles dedans. Voilà. Mais je suis sûr que demain matin, après le week-end sportif, il y aura plein de trucs à raconter. Salut, salut Sophie, j'ai raté ton. Merci Sophie, j'ai raté ton sub, mais je te remercie. Et Sandy Loulou, merci pour le 11e mois. La hulotte du Mexique, merci à toi. Depuis tout à l'heure, tu dis que tu n'entends rien. Et j'ai vu tous tes messages. Et en fait, chacun écoute ce stream sur des supports différents. Tablette, téléphone, ordinateur, dans des conditions différentes. Et en fait, je ne vois que toi, mon ami, sur le son tout à l'heure. Donc, chez moi, on est dans une. En termes de dB, on est pas mal. J'ai l'impression que tout le monde m'entend plutôt bien. Donc, du coup, je ne vais pas monter le son parce qu'après, ça va saturer pour des gens qui, pour l'instant, n'ont pas de problème, quoi. Ouais, c'est vrai que le biathlon, j'aurais pu en parler, ouais. C'est vrai, ouais. Alors, ouais. C'est vrai que la France championne du monde par équipe en biathlon, j'aurais pu. Mais l'article n'était pas super. J'ai un peu besoin de vibrer avec l'article. Et je suis un peu chiant parce qu'il faut que l'actu m'intéresse. Et après, il faut que l'article me plaise. Et en fait, l'article était un peu chiant. Mais en même temps, je suis pas allé voir l'équipe. Vous savez quoi? Puisque je vous aime, je vais aller télécharger l'équipe tout de suite en direct. Et on va aller voir d'abord sur quoi l'équipe fait sa une. Tiens. Foot, biathlon. On va faire ça en direct. Ok. Je me fais engueuler par plein de gens sur le biathlon. Ok, biathlon. Merci Décadragme pour le 7e mois. Et le gentil message et Caroxys pour le 9e mois. Merci à tous les deux. Ok. Bon, bah on va télécharger l'équipe alors. Je pense qu'on va télécharger l'équipe. Ok. Eh ben on y va, c'est parti. Allez, téléchargeage de l'équipe en direct. Suspense intolérable. Alors, très bien, l'appli de l'équipe qui m'inflige une petite pub. J'adore ça. J'adore les applis. Tu vas sur une appli. Il y a quelques journaux comme ça. Je vais balancer. Hein. Il y a Les Échos. Je balance. Les Échos, l'équipe, tu vas sur l'appli pour télécharger, donc pour acheter le journal. Voilà. Où est-ce qu'il est? Hop, le journal. Et l'appli te met une pub. Et l'appli te met une pub. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Tu vas sur l'appli pour acheter le journal, tu l'achètes et l'appli te met une pub. Tu dis non. Tu dis, hey, les gars, vous voulez pas fromage et dessert, quoi. Pas, non, on fait péter les euros pour acheter le journal, arrêtez quoi. Et tous les journaux font pas ça. Moi ça me choque vachement. Hein. Je sais pas, chez les amis des Échos ou de l'équipe ici, mais ça n'est pas possible, ne faites pas ça quoi. Je trouve ça, mais insulte, c'est. Ah, ça m'énerve. Tu payes ton journal et le mec te cale une pub quoi. Échos, équipe, ne faites pas ça quoi. Oh, ça m'énerve. Excusez-moi. Acheter cette édition, 2,49 € pour l'équipe, voilà, j'achète. Hein? Ne m'envoyez pas des pubs, putain. On vous achète votre journal déjà. Bordel. Reconnaissance faciale. Okay. Achat en cours. Voilà, on est en train de regarder l'équipe. Alors, c'est intéressant parce que du coup, vous êtes plein à me dire, ouais, Sam, il faut parler du titre mondial. Biathlon homme pour la France. Donc, est-ce que. Hop, c'est en train de télécharger. Est-ce que c'est à la une de l'équipe ce matin? Ah, ou pas du foot hein? T'es pas abonné aux cartes presse. La carte de presse ne donne pas l'accès aux journaux gratuitement. Hein? J'achète les journaux. Hein? Voilà, c'est presque téléchargé. Hop, c'est parti. Hop, lire l'édition. Alors, suspense, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti pour la revue de presse et on commence par l'équipe pour voir ce qu'il y a à la une de l'équipe ce matin. Prêt? Suspense. Et comme le dit Monsieur Poulpe, j'ai mal au dos. J'ai tellement mal au dos de retenir ce suspense. Silver Quaid, merci pour le 16e mois d'abonnement. Anne Célessimo, merci pour le 5e mois. Graken H2S, merci pour le 18e mois d'abonnement. C'est comme si on mettait une pub en partageant mon anniversaire de sub. Exactement, Graken, exactement. Merci. Merci à tous les trois, vous êtes super cool. C'est parti. Attention, suspense. Tac. Ok. Ah bah non. Il y a du biathlon tout en haut, regardez. Mais la une de l'équipe, c'est pas sur le biathlon. Ah, c'est dommage. C'est sur le match du PSG face à Lille. C'est bien le foot, c'est important. Mais quand même, question. Est-ce que c'est pas dommage que ce qu'il y a en haut, et dont vous me parliez tous là, vous me parliez pas du match du PSG de tout à l'heure. Hein, vous me parliez de ce titre pour le biathlon. Voilà. Le sacre du quartet. Champion du monde, relais homme. Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Fabien Claude, Antonin Guiguenat ont décroché un troisième titre mondial en relais pour les Bleus. Voilà. Et c'est là, mais c'est en plus petit, quoi. Ouais. Ah, bon, alors après, c'est un grand débat. Certains disent que l'équipe parle trop de football, notamment trop du championnat de Ligue 1. Après, un journal, il faut qu'il soit lu et il faut qu'il soit acheté. Il y a la Jumzal qui me dit: bonjour Sam, on s'est rencontré la semaine dernière sur le plateau de questions pour un champion. Hello à toi. Si je défends rien, hein, mais si l'équipe met beaucoup de foot en sa une, c'est parce que l'équipe a les chiffres de ses ventes. Et ils le font pas juste comme ça par pure charité chrétienne ou passion du foot. C'est-à-dire que si l'équipe met plus souvent du foot que d'autres sports à la une, c'est tout simplement parce qu'ils constatent sûrement que quand ils mettent du foot à la une, ils vendent plus de journaux que s'ils mettent par exemple du biathlon ou un autre sport. Et à un moment, un journal, c'est une entreprise et il faut que le journal soit vendu, il soit lu. Donc je ne veux pas défendre l'équipe, mais je vous explique ce qu'il y a peut-être derrière. Money, bah oui, mais s'il n'y a pas money, le journal il ferme. Donc vous voyez. Donc c'est pas si grave. Et comme le dit El Giganto, c'est pas très grave si l'article sur le ski est bon par ailleurs, parce que c'est vrai. En plus. Bon, la une c'est une chose. La une c'est l'accroche. C'est ce qui va donner envie au lecteur occasionnel, notamment celui qui passe devant son kiosque ou devant sa tablette, d'acheter le journal. Bon, après ce qui est intéressant c'est ce qu'il y a dedans, quoi. Donc feuilletons l'équipe. Donc on a du biathlon, on a je vois qu'il y a une manche de slalom homme en ski alpin qui a l'air intéressante aussi, important. On a un match donc du PSG Paris sur un fil. C'est vrai que la saison du PSG est pas top. En championnat c'est compliqué, on a des poursuivants qui sont pas très loin. Coupe de France c'est terminé, on est d'accord, hein. Le PSG, rappelez-moi, je suis un peu fiévreux ce matin, on est d'accord que le PSG, la Coupe de France est terminée, non? C'est oui, c'est battu, non? Par Marseille, hein. On est d'accord. Et la Ligue des Champions, ben il y a un huitième de finale aller qui arrive là, face au Bayern, si je dis pas trop de bêtises, et qui pourrait s'annoncer compliqué aussi, quoi. Donc Paris sur un fil, 5 jours après sa défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG espère retrouver une dynamique positive sur le terrain, car en coulisses les tensions sont réelles. Après, moi je suis de ceux qui pensent que sur le huitième retour, le match retour, tout est possible et que le PSG battu à l'aller peut gagner, hein. Voilà. Avec si le match retour ressemble à la fin de match avec la révolte sonnée par Mbappé, tout est possible. Hop. Haute tension, voici le titre à propos du match contre Lille tout à l'heure, c'est le PSG qui reçoit. OK, d'accord. Bon, c'est vrai que si on regarde le classement général, Paris est en tête mais avec pas moult points d'avance, hein. Il y a 5 points d'avance sur Marseille. Qu'est-ce qu'ils ont fait Marseille d'ailleurs là? Ah bah c'est ce soir. Ah oui, Marseille joue ce soir en plus, déplacement à Toulouse. Monaco 47 points, Monaco qui joue aujourd'hui. L'essentiel des matchs c'est aujourd'hui en fait. Il y avait Auxerre-Lyon, victoire Auxerre 2-1 vendredi. Il y avait l'ami Zach Nani qui était à la maison, qui discrètement surveillait le match pendant l'hebdo Étienne de vendredi soir, le pauvre. Et il a vu donc sur les réseaux la défaite de son équipe. Match nul, Lille-Reims 0 partout, c'était hier. Et Strasbourg-Angers, victoire de Strasbourg 2-1. Les autres matchs, donc aujourd'hui, PSG-Lille, Brest-Monaco, Lorient-Ajaccio, Rennes-Clermont, 3-Montpellier, Lens-Nantes et Toulouse-Marseille. Voilà. Tu ouvres encore un OnlyFans, Samuel? toujours pas compris ce que c'était OnlyFans en fait. Elle me dit Cura, c'est pourquoi, c'est pour faire quoi un OnlyFans? Est-ce qu'on peut faire de l'information sur OnlyFans? Est-ce qu'on peut parler de la réforme des retraites? Alors ça rigole, manifestement c'est non. C'est pour tes vrais fans, ok? C'est pour vendre les photos de tes pieds. Ah bon? Ça vaut pas beaucoup de sous ça. C'est pas de ton âge. Merci Yonat. C'est pour avoir un seul fan. Ah bah oui, Marouille. Only fan. C'est pas très intéressant. Pour la réforme des retraites, pour l'Ukraine, c'est pas top. C'est pas top. Ah! Klamakin me dit, oui, tu peux, il y a même une catégorie retraité. Ok, d'accord. Okay. Donc, bon, OnlyFans, non. Je vous rappelle que je viens d'ouvrir, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, un compte. Je me rappelle même pas du nom du truc. TikTok. Si vous tapez, regardez, comme vient de le faire MMG, c'était dans le chat, point d'exclamation Samuel. Vous avez certains de mes réseaux sociaux, Twitter, bon bah j'y passe ma vie, Instagram, hein, et TikTok. Ouais, j'ai créé un compte TikTok. J'ai créé un compte TikTok où je poste essentiellement des petits extraits de l'hebdo Étienne. Ouais. Et c'est très bizarre TikTok. Là par exemple, on a posté une vidéo de vendredi de quand j'explique comment j'ai fait progresser la parité à Question pour un champion en demandant à mon équipe qu'il y ait de plus en plus de femmes à venir jouer. Donc le compte, il a 15 jours, 3 semaines. 240 000 vues. 240 000 vues. Voilà. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Zach me disait vendredi à la maison, Zach Nani, que en fait sur TikTok, les vues, ça allait très très vite, quoi. Donc je suis pas très. Je suis pas très. Qu'est-ce que vous pensez quoi de TikTok? Hein? On en a parlé vendredi, parce que c'est vraiment. Les enquêtes sont très très claires. Hein. Le réseau social des jeunes, hein, c'est vraiment très, très 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 utilisé par les plus jeunes. Voilà. Ouais, 240 000 vues. Ouais, c'est fou. Hein. Donc qu'est-ce que ça vaut ça? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est un outil intéressant? Est-ce que ça peut être un outil intéressant? Je suis très sérieux pour parler d'information, par exemple. Est-ce qu'un petit contenu court tous les matins d'infos? Vraie question. Est-ce qu'un petit contenu court tous les matins d'infos sur TikTok, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà. Réflexion, réflexion. Vous en pensez quoi? Je pense pas. Tu pourrais faire les titres. Ouais, faut voir, pas sûr. 1 euro les 1000 vues. Si plus d'une minute, Samuel Etienne. TikTok? Ça ferait 240 euros cette vidéo? Ma vidéo là, elle ferait. Non, c'est impossible. Mais non. Est-ce que ma vidéo fait plus d'une minute déjà? J'espère du coup. Est-ce que cette vidéo fait plus d'une minute? Je pense que oui. Elle fait 50. C'est pas possible, elle fait 59 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle fait 59 secondes. Attends. Quelqu'un vient de me dire, Sam, 1000 vues, c'est 1 euro. 240 000 vues, 240 euros, mais il faut que la vidéo fasse plus d'une minute. Je viens de voir qu'elle fait 59 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette équipe qui me fait des vidéos de 59 secondes? Hugo Décrypte le fait déjà sur TikTok. Donc ça, pourquoi pas, en cas d'accord. C'est ce que fait Hugo Décrypte. Ça copie Hugo Décrypte? Ah bah non, parce que j'étais même pas au courant. Je suis au courant de rien, moi. Ah Hugo, il fait des trucs sur TikTok? Ah, je vais aller voir. Okay. La minute Étienne. On a déjà le titre, merci Shark Vador. Ouais. Ça peut être vraiment intéressant, me dit Remake. Ok. 1000 vues, c'est 1 euro? Bah, donc c'est une vidéo à 240 euros. Mais sérieux, quoi? Ah non, non, il y a le Francis qui me dit pas du tout, ça fait 5 ou 6 euros. Alors c'est. Mettez-vous d'accord, c'est combien? Ah, un pro me dit. Attention Sam, c'est les vues éligibles, c'est pas aussi simple que ça. Je m'en doutais. Tiens, si vous en sérieux un petit peu, parce que là je déconne. Il y a le grand Manitou qui dit, je suis en école de journalisme, on étudie de plus en plus cette plateforme, donc TikTok, comme outil de transmission d'informations. Et il y a de plus en plus de journaux dessus, genre Le Monde. Ah, Le Monde est sur TikTok? Ah, vous voyez? C'est intéressant ça. Tu vois, il y a Mumu qui dit je valide la minute Étienne. Voilà. Je kifferais bien perso, me dit Axel. J'adore ce genre de contenu, alors je suis à fond. Je savais pas que. Ah voilà. Zouf me dit 200 000 euros, 200 000 vues, c'est 10 euros max. Hein, d'accord. Je savais pas en fait que, okay, que le monde était dessus, notamment. Je vais aller voir. Ok. Ok. D'accord. Ok. En fait, ce qui m'intéresse là-dessus, je vais vous dire. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure à propos de des comptes qui parlent d'histoire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, notamment sur TikTok. En fait, ce qui m'intéresse dans TikTok, c'est que d'abord, c'est une nouvelle forme d'écriture. Et parfois, en cherchant des nouvelles formes d'écriture, ici plutôt quelque chose de bref, eh bien, on arrive à des choses intéressantes. Comment, par exemple, parler d'actu chaque matin, clairement et brièvement. Donc ça peut être un défi qui est intéressant parce que pour être clair et bref, il faut que ce soit vraiment très clair dans sa tête. Donc un effort de vulgarisation et d'écriture. Et puis, il y a touché aussi un autre public puisque sans vous faire injure, le public de TikTok est vraiment très jeune, plus jeune encore manifestement, disent les stats, que Twitch. Et c'est intéressant de toucher le plus tôt possible un public jeune par un contenu de qualité, notamment pour leur donner le goût de l'info et de la lecture des journaux, par exemple. C'est ça, c'est là où ça m'intéresse. Bon, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Peut-être que cet été, je vais travailler là-dessus. Hop, on continue la lecture de l'équipe. Bon, on va pas lire tous les papiers sur la Ligue 1, on est d'accord. Nous, ce qui nous intéresse de voir, notamment, c'est quel est l'article sur ce championnat du monde de biathlon, là, que je vous ai pas mis de côté parce que l'article que j'ai trouvé dans la presse généraliste m'a pas totalement séduit. Ok, je passe. Foot, 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 on est page 17 déjà. Foot étranger, Ligue 2, foot féminin. Waouh! 5-1 contre l'Uruguay, l'équipe de France féminine. Okay, bravo les filles. Ah! Voilà, il faut attendre la page 20, hélas, pour trouver cet article sur le souffle de la victoire avec les biathlètes français Antonin Guigona, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet qui ont emporté le relais devant les imbattables Norvégiens de Johannes. On croit qu'on dit Bø. Johannes Bø, je crois qu'on dit Johannes Bø. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai compris ce matin, c'est que au niveau individuel, les Norvégiens sont très très forts, notamment avec Johannes Bø, qui est un petit peu le Martin Fourcade d'avant, du côté norvégien, mais que les Français forment un tellement beau groupe, ont tellement été solidaires, que du coup, ils ont fait une course incroyable. Qu'est-ce que dit l'article? On lit en diagonale rapidement. Miel qui dit bonjour, vous autoriserez vos enfants à utiliser TikTok lorsqu'ils auront quel âge? Mes enfants, ils auront le droit d'utiliser TikTok vers 75, 78 ans à peu près. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc là, ça raconte vraiment comment la victoire s'est faite. On est dans le détail de la course. Couronne avec un goût de revanche, car depuis le début des mondiaux, les Bleus n'avaient pas été à la fête. Ça nous permet de faire un petit point sur ce mondial de biathlon. Même la quatrième place de Fillon-Maillet dans l'individuel avait été gâchée par le fait qu'il fallait remonter au 32e rang pour trouver trace du deuxième français. Alors, donc globalement, au niveau individuel, c'est ça qui est intéressant. Les Français n'ont pas super brillé sur ce mondial. Du coup, cette médaille d'or par équipe en biathlon homme permet un petit peu de, que dit l'équipe, de... Ah, un petit coup de revanche. Donc au niveau individuel, c'est un petit peu faible en ce moment. Néanmoins, ce groupe vit depuis assez longtemps, 2017, pour savoir se serrer les coudes, et hier, ça a marché. Depuis le début de la saison, on attendait mieux, peut-être trop. Peut-être qu'on a été impatient, estime Émilien Jacquelin. Ok, c'est bien. On sauve les championnats grâce à cette médaille d'or. Bon, c'est bien. Ça va me permettre de faire le malin demain. Dans la matinale de France Info, quand le journaliste des sports Jean-Sébastien Fernandez va revenir sur le biathlon, et je dirais, ouais, Jean-Seb, c'est vrai qu'on peut dire que cette médaille d'or, elle sauve un petit peu ces mondiaux hein, pour les biathlètes français, parce qu'au niveau individuel, c'était pas ça, 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 ça. Voilà. Il y a 30 secondes, j'en savais rien, et demain, je vais pouvoir faire le malin. C'est grâce à vous. Hop. Hop, je lis des petits messages, excusez-moi, je clique, je reviens dans le passé. comprendre un message. Quelqu'un me disait, il y a des spécialistes de biathlètes, il y a Matt qui me dit que c'est la première course que Johannes Bull Norvégien ne gagne pas depuis décembre. Voilà. Ok. Ok. Énorme, énorme course des Français, me dit-on dans le chat. Ok. On peut écrire les nouveaux aussi. Il y a la Jumzal qui dit c'est la première fois que je te regarde sur Twitch, salut, je suis trop fan, merci, quel bonheur de prendre le temps pour l'info, on est là pour ça. Si je comprends bien, c'est le principe, on peut te demander de parler d'un sujet. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a les journaux que je lis, et puis de temps en temps, on part aussi sur des infos que vous me proposez. Par exemple, là, vous êtes plusieurs à me dire, bah Sam, tu parles pas du mondial de biathlon. Voilà. Donc c'est fait, voilà. Mais après, je ne fais pas que répondre à vos questions, sinon le stream durerait 15 heures, et on est dimanche, et j'ai aussi une vie à côté. Il y a Mécha Baron qui dit le journalisme ou l'art de faire croire que tu es un expert sur un sujet que tu connais depuis 3 minutes. Mécha Baron ou Mécha Baron, c'est pas totalement faux ce que tu dis. Voilà. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Voilà. Ou alors, si on peut le dire totalement positivement, le journalisme ou l'art, par notre grande capacité de synthèse et d'analyse, de maîtriser un sujet en 2 minutes qu'on ne maîtrisait pas du tout avant. Voilà, on peut le voir aussi comme ça. Je sais pas ce que tu penses. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas ce que tu en penses. Allez, feuilletons l'équipe encore et arrêtons de critiquer les journalistes. Donc manifestement, il y a un truc important en ski alpin aujourd'hui. Donc c'est le championnat du monde de ski alpin, hein, c'est à Courchevel et Méribel. On a Noël, comment il s'appelle de Noël, son nom de famille, mais son prénom c'est quoi lui? Clément Noël. Peut-être une course importante aujourd'hui. C'est quoi? C'est en slalom homme. Il y a Pinturo, hein, Alexis Pinturo qui fait un magnifique championnat du monde aussi. C'est beau, hein, je sais pas si l'équipe en parle. Après 2-3 ans difficiles là. Pinturo, bravo à lui, hein, c'est incroyable ce qu'il fait. Ok. Donc il y a un peu de ski alpin aujourd'hui aussi. Ok. Bon, rugby. Bon, quand je tente. Puisque j'ai. Oh, il y a Pinturo qui descend en ce moment. Vous mettez au courant, hein, si Pinturo fait encore un truc. Je crois qu'il a 2 médailles déjà. Hein. Médaille d'or, médaille de bronze, hein, je crois. Énorme, énorme, énorme. Si Pinturo fait un truc ce matin, vous me dites. Hein. Alexis Pinturo, coureur de. Skieur de Courchevel. Il y a du rugby. J'ai acheté l'équipe pour tomber au bout. Hein. Hop, hop. C'est vous, hein, c'est à cause de vous que j'ai acheté l'équipe ce matin, j'avais oublié. Je suis un petit peu. C'est pas beau de vivre. Du vélo. De l'athlétisme. Ok, du basket. Pour ou contre les poils sous les bras? J'ai pas de. Il vient de terminer 5e. Oh, c'est bien quand même. Ok. Mais Veltinette me dit les médailles sont en 2e manche à 13h30. Donc si c'est que la première manche. Ah, merci MMG. On est bien sur le 5e temps provisoire de la première manche. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Oh, une 3e médaille pour Pinturo, mais quel. C'est fou. Et c'est beau, hein, Pinturo qui a gagné le gros globe de cristal qui récompense le skieur le plus régulier de la saison. C'était il y a 3 ans, je crois. C'était énorme. C'était pas arrivé depuis super longtemps. Il est rentré dans l'histoire du ski français. Et là, ça faisait 2-3 ans. C'était compliqué. Il a pas réussi à rester au même niveau. Il l'a avoué lui-même. Hein. C'était très compliqué. Et là, vraiment, il fait un mondial incroyable. Quoi. Voilà. Pour ou contre les poils, j'ai pas d'avis. En vrai. C'était juste pour vous faire marrer. Du judo. Du cinéma. Ok, d'accord. Et un petit dessin sur le match du PSG de tout à l'heure. Ok. Eh ben, on a lu l'équipe. On a lu l'équipe. Voilà. Et puis, il y a l'affaire du kimono en judo. Ah, Waltinette, tu sais que tu piques ma curiosité, là? Oh, j'ai pas vu que la maquine. Tu m'as DM sur Twitter récemment pour une propos de pour rejoindre l'équipe de Modo. J'ouvre mon Twitter. C'est le même pseudo. Je te vois pas. Je vois pas ton. Tu peux me renvoyer un message, Clamakin? Ou c'est une. À moins que ce soit une blague. Parce que je vois pas ton message. N'hésite pas à me le renvoyer, comme ça il va remonter dans les messages. Ok. Semaine dernière, même pseudo, tu peux me renvoyer un, tu peux me faire un petit up? Parce que la semaine dernière, j'étais chargé, de chez chargé, quoi. N'hésite pas, renvoie-moi un petit message, ça va remonter. C'est quoi l'affaire du kimono? Avec Clarisse Agbegnénou? Panneau municipal, non, pas Clarisse Agbeniaou. Clarisse Agbegnénou. Je sais que c'est compliqué à dire, mais quand même, quoi. Ah, ok, Walter me dit Clarisse Agbegnénou, immense championne. Aussi solaire, gentille que puissante et impressionnante, en conflit avec sa fédé pour un kimono d'une marque différente, privé d'entraîneur. Ouais, bon. Petite histoire. D'accord. Si? Ah! Jerk me dit Rinner, Teddy Rinner, a le droit d'un kimono avec sponsor et les autres on les sanctionne. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, ça c'est autre chose alors. Ah, ah, ah. Alors comme ça, certains ont des petits traitements de faveur. Ça, en France, où on a une forme de culte pour l'égalité, ce qui en soi est plutôt intéressant d'ailleurs, ça ne passe pas. Oh, article du Monde. Putain, en fait, c'est vous les meilleurs. Hein. C'est pas moi qui trouve les bonnes infos. Pas mal cette histoire. Article du Monde là-dessus, regardez. Les raisons du conflit entre Clarisse Agbegnénou et sa fédération. Je ne l'ai pas vu cet article, pourtant j'ai lu Le Monde. Peut-être que c'est pas dans l'édition papier. La championne olympique faisait son retour à la compétition vendredi à Tel Aviv, après un congé maternité. Elle est incroyable cette championne. Parce qu'elle a refusé de porter le kimono du sponsor officiel de l'équipe de France, la fédération l'a privée de son coach pendant les combats. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, c'est chaud. Pendant les combats? Ah ouais. Elle s'incline en quart de finale du coup. Oh. Ok. Le blocage provient de dissensions entourant la signature d'une convention entre Agbegnénou et la Fédération française de judo, notamment sur l'équipement. Ok. En fait, je comprends par l'article que il n'y avait plus de convention signée entre la judoka et la fédération depuis plusieurs années. Après, il y a eu le congé maternité, donc du coup, ils n'avaient pas signé de nouvelles conventions. Et du coup, la fédération a demandé à la judokate de signer une nouvelle convention, mais dit-elle, du jour au lendemain. Voilà. Et du coup, elle n'a pas signé la convention. Et elle s'est engagée à titre personnel avec un autre équipementier que celui de la fédé. Ok. Le problème, c'est qu'il existe un précédent et non des moindres. Depuis 2021, Teddy Riner, autre champion olympique, parce que Clarisse Agbegnénou est championne olympique, est lui autorisé à porter en compétition son propre kimono de sa propre marque, Fight Art, qu'il a créé lui-même. Et donc Clarisse Agbegnénou, elle dit, je veux être traité de la même façon. Pourquoi je ne pourrais pas avoir ce droit? Ah ouais. Alors la fédération dit que c'est pas pareil. Parce que Clarisse, elle est engagée avec Mizuno, qui est le premier concurrent d'Adidas. Alors que Teddy Riner, c'est sa propre marque, une production en petite quantité. Vous voyez, chacun ses arguments, quoi. Ouais. Alors après, j'ai pas d'avis forcément très intéressant à exprimer sur une actu que je découvre. Hein. On a suffisamment d'experts qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est dommage qu'on en soit arrivé à priver quand même de coach pendant une compétition internationale, une immense championne comme ça, parce que aucun accord a été trouvé. Peut-être qu'autre chose aurait pu être trouvé, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Alors ça pose une question quand même. Hein. Pas tant, bon, bah de. Ils sont pas d'accord sur le truc, ok, bon. C'est des enjeux qui sont peut-être un peu financiers et économiques aussi. Mais sur la sanction, là, il y avait peut-être moyen de trouver, je sais pas. Ouais, ça, je suis d'accord avec Zarboul qui dit que ça rappelle un petit peu l'histoire de la navigatrice là, pour le prochain Vendée Globe. Ils auraient pu faire ça après le match, pas pendant, dit Olivier par exemple. Ouais. Carineo dit c'est la règle, tu ne mets pas le kimono de la Fédé, tu perds ton coach directement. Voilà. Sauf qu'il y a le précédent Teddy Riner. Et elle dit, je ne vous ai pas lu tout l'article, mais elle dit aussi, c'était impossible de m'adapter au nouveau kimono en si peu de temps. Bon, voilà. Bon, ok, on va suivre cette histoire. Je remercie El Bidouilleur pour le 13e mois, Yoshi Forever 2609 pour le 12e mois, et le gentil message, mononeurone, je pense que tu te sous-estimes mononeurone. Je pense que tu te sous-estimes mononeurone. Merci beaucoup pour ce 14e mois d'abonnement. Merci à tous les trois. Vous savez quoi, on a bien fait de lire l'équipe. Voilà, on a parlé un petit peu de biathlon et du coup on a parlé de cette histoire. Ce qui va me permettre, ce qui va me permettre lundi, quand je vais retrouver, hop, quand je vais retrouver mon équipe de la matinale de France Info, si jamais la question du judo ou de Clarisse Agbenienou arrive sur le tapis, de dire, bah non, non, c'est un vrai sujet. Ah non les gars, non vous vous rendez pas compte. Ah bah si. Ah bah, elle a quand même été privée de coach pendant la compétition. Ah bah si. Ah oui. Oui, non, mais il y a un précédent, Teddy Riner, vous voyez. Ouais. L'escroc. Mandu, merci pour le message. Si la question arrive sur le tatami. Ouais, bien joué. Zoldric, je ne mérite pas tous ces gentils mots, mais c'est très gentil. Très gentil. Bon, et ben c'est parti. Maintenant qu'on a fait un petit sommaire, qu'on a lu un petit peu l'équipe ensemble et qu'on est ensemble depuis une heure, pour lire un petit peu les journaux de ce matin. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. Allez, comme le dit MMG, allez, lisons à toi. C'est notre ami Lisons, parce que je le dis souvent, allez, lisons. C'est parti. Go. Donc, je dis merci aux Parisiens d'abord, le Parisien dimanche. Ce dossier sur un an de guerre en Ukraine. Bon, on va pas mal en manger cette semaine qui arrive, mais c'est important puisque vendredi 24 février prochain, eh bien ça fera un an. Merci Dinixis, c'est gentil. Un an que la guerre en Ukraine a éclaté. C'était en pleine nuit quand on a appris l'offensive russe contre le territoire ukrainien. Je pense que vous vous en souvenez. Peut-être c'était il y a un an tout pile. Donc cette semaine va être pas mal placée sous le signe de l'Ukraine dans les médias français. Ça commence avec le Parisien dimanche ce matin. Ukraine, un an de résistance. Avec un sondage ici qui est mis en avant et qu'on va évoquer. 79% des Français s'inquiètent d'une possible extension du conflit. 65% approuvent la livraison d'armes à l'Ukraine. Voilà. On va se pencher là-dessus parce que une des questions qui est posée par le Parisien, c'est est-ce que les Français soutiennent le fait qu'on soutienne l'Ukraine ou pas dans ce conflit. Donc il y a cet article-là. Ouais. Il y a deux aspects dans ce dossier du Parisien. C'est ce qu'en pensent les Français. Et du coup, je vais vous poser la question ce matin. Vous allez me dire ce que vous pensez de ce conflit. Est-ce qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine? Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet des éventuelles conséquences de ce conflit sur notre situation économique, par exemple, voilà. Donc je vais vous poser un peu les mêmes questions qui ont été posées aux Français dans ce sondage du Parisien. Et puis après, on reviendra sur un an de guerre en Ukraine en 5, je crois. Ouais, 5 temps forts, voilà. Ce qui nous permettra de revenir un petit peu en arrière parce que ben, un an, ça remonte un petit peu. Voilà. Donc on va regarder ça. On me tient au courant aussi sur le ski alpin. Clément Noël, 6e temps provisoire devant Pinturo, 9e. Ok, super. Merci beaucoup. Lucien Ducasse, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à la bidouilleur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voyons d'abord ce qu'on... Salut Hugo, salut Eden. Voyons ce qu'en pensent les Français, d'abord. Un conflit qui n'en finit pas d'inquiéter les Français. Selon notre enquête Opinionway, 80% des sondés s'alarment des conséquences de la guerre sur leur foyer tout en soutenant majoritairement les livraisons d'armes. La crainte d'une troisième guerre mondiale reste forte. Voilà pour les grands enseignements de ce sondage. Presque un an, jour pour jour, après l'invasion russe de l'Ukraine, la guerre s'installe dans la durée. Bon, bah ça, on le sait. Les perspectives de paix ne seraient qu'illusion. Qui pense que demain, après-demain, dans 10 jours, dans 2 semaines, il peut y avoir une paix en Ukraine? Bon, ben, y a très 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 peu de gens. Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position, mais je suis convaincu qu'à la fin ça ne se conclura pas militairement. Qui dit ça? C'est le président Macron qui dit ça, interview vendredi dernier. Oui, on y reviendra dans le JDD. Le président Macron qui a notamment prononcé ces mots, il ne souhaite pas écraser la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera tout à l'heure. Les dizaines de milliers de victimes civiles en Ukraine et militaires des deux côtés, la destruction systématique et sauvage d'un pays aux portes de l'Union européenne, la menace planante de l'arme nucléaire, de l'extension du conflit émeuvent et inquiètent tout à la fois des Français solidaires avec les Ukrainiens, écrit le Parisien ce matin. Tel est l'enseignement de ce sondage. Voici les résultats de ce sondage. Écoutez, et puis je vous demanderai ce que vous en pensez. Près de 90% des personnes interrogées, donc c'est énorme, hein, s'inquiètent des conséquences économiques de la guerre, notamment la hausse des prix, vous savez, l'inflation. 80% des sondés s'alarment des effets directs sur leur foyer. Tout aussi frappante, l'inquiétude face au débordement des combats hors des frontières ukrainiennes. Est-ce que ce conflit peut déborder 79% des Français sont inquiets, voire un risque de troisième guerre mondiale. 77% estime que une troisième guerre mondiale est possible. 77% des Français pensent qu'une troisième guerre mondiale est possible. Voilà. Ça montre aussi, dit le Parisien, qu'on ne s'est pas habitué à ce conflit, parce que parfois, vous savez, une information qui dure, c'est une information qu'on oublie. Et en fait, non, les Français pensent toujours énormément à cette guerre. La peur d'un recours au nucléaire aussi reste très élevée chez les Français, 69%. Donc des inquiétudes sur la situation économique en France, sur l'inflation, sur le risque de troisième guerre mondiale, sur le risque d'un conflit nucléaire. L'inquiétude qui n'empêche pas la solidarité et le soutien, pour l'instant, écrit le Parisien. Ainsi, la politique de la France reste majoritairement approuvée, celle d'un soutien aux Ukrainiens. C'est le cas pour les sanctions économiques, que les Français soutiennent à 72%, malgré leur effet boomerang sur l'économie française. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, soutenues par 2 Français sur 3, 65%. Les plus réticents étant, qui sont les plus réticents au soutien militaire à l'Ukraine ? Les sympathisants du Rassemblement National, nous dit ce sondage, en ligne avec une Marine Le Pen qui longtemps a été proche de Vladimir Poutine, même si aujourd'hui elle le met moins en avant. Pour autant, 54% des sondés jugent que le président Zelensky en demande trop. 54% des sondés estiment que Zelensky en demande trop. Je termine le sondage et puis je vous donne la parole et on fera quelques petits sondages ensemble pour que vous me disiez ce que vous en pensez, vous. Dans le même esprit, il faut noter qu'en cas de conflit qui dure, une majorité des Français, 64%, répondent pas d'accord quand on leur demande s'ils en accepteraient les conséquences économiques. 64% des Français ne veulent pas que les conséquences économiques de ce conflit les impactent longtemps. Voilà. Donc si jamais la guerre dure et dure longtemps, bah, y aura un gros effort de pédagogie à faire au niveau des autorités, quoi. Enfin, quant à la manière de finir cette guerre, 6 Français sur 10 estiment que cela passera par la négociation. Seuls 21% croient à une victoire armée de l'Ukraine, 15% seulement à une victoire armée de la Russie. Enfin, dernier chiffre, 43% pensent que l'Ukraine devrait accepter de céder une partie de ses territoires russes, ce qui serait évidemment inacceptable pour les Ukrainiens. Voilà pour ce sondage. Je vous lis un petit peu, puis je vous demande ce que vous en pensez. Psygoulet, merci beaucoup pour le 5e mois d'abonnement. Et Julien, à l'instant, habitué aussi, qui découvre cette nouvelle émote animée de Papy Sam qui boit du café. Merci pour le 11e mois. Il y a Kronde qui dit les conséquences de ce conflit, ça va être des milliers de licenciements dans ma boîte. Merci Poutine. Il y a Emotep qui écrit à propos de Zelensky, quand ton peuple meurt sous les bombes, tu ne peux jamais en faire trop. Ok. Vous êtes plusieurs à dire comme M-Wendigo, perso je fais partie de ceux qui ne s'inquiètent pas, encore moins d'une troisième guerre mondiale, il faut remettre les choses à l'échelle. Tiens, on va faire un sondage. Ok, à vous de me dire. Tiens, on va faire par exemple cette question qui semble créer un petit débat dans le chat. Est-ce que vous pensez ce conflit peut-il déborder? C'est compliqué de, parce que en fait la réponse est compliquée parce que je peux vous demander si vous pensez que cette guerre en Ukraine peut tourner en troisième guerre mondiale. Je peux aussi vous demander si cette guerre peut déborder vers d'autres pays comme la Moldavie par exemple. C'est pas le même sujet. Je vais essayer de vous tourner ça de façon intelligente. Ce conflit peut-il déborder à minima vers d'autres pays? Vous savez qu'il y a d'autres pays comme la Moldavie qui ont très très peur que d'être à leur tour ciblés par l'armée russe. D'autres pays. J'écris comme un cochon. Voilà. Ça rentre pas. Ok. En troisième guerre mondiale. C'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui pensent que c'est possible. Ouais, et je mets non, et je mets je ne sais pas. Je ne sais pas si le sondage est bien tourné, j'essaie de faire au mieux, je le lance dans quelques secondes. Le sondage vous demande, est-ce que ce conflit peut déborder, un, à minima vers d'autres pays, c'est-à-dire vous pensez que ça peut déborder vers d'autres pays comme la Moldavie, par exemple, mais pas déborder en troisième guerre mondiale. Deux, non, non, vous pensez que ça peut être possible, un truc avec le jeu d'alliance, le monde entier qui part en troisième guerre mondiale, comme ça s'est passé déjà deux fois par le jeu des alliances. Ou trois, non, vous pensez que ce conflit ne va pas déborder et va rester localisé à l'Ukraine. Enfin, quatre, je ne sais pas, je lance le sondage. Ouais. Parce que je reprends le sondage publié par le Parisien. ⁇ 77% des personnes interrogées pensent que ce conflit peut tourner en troisième guerre mondiale. C'est étonnant, hein ? C'est étonnant quand même. Alors je vois le résultat de votre sondage qui sont en train de s'afficher et qui est intéressant parce qu'on n'est pas sur le même résultat. Salut David, non, t'as pas trop loupé trop de trucs. On a lu des trucs intéressants, mais il reste des choses. On a parlé de plein de choses, mais on est seulement vraiment au début de la revue de presse. Tu n'es pas très en retard. Alors le sondage, hop, je vous l'affiche pour ceux qui n'arrivent pas à le voir. Le voici. Est-ce que ce conflit peut déborder? Je vous rappelle que selon ce sondage dans le Parisien, 77% des Français pensent, tiens, il y a le soleil qui arrive, que ce conflit pourrait tourner en troisième guerre mondiale. Je vais tirer le rideau, il fait presque trop beau. Vous pensez, vous, à 46%, ce qui est beaucoup, 47% même, que ce conflit peut déborder vers d'autres pays. Ça, c'est intéressant. En troisième guerre mondiale, non, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes que 17% à le penser. Je mets ça en écho par rapport au chiffre de 77% du Parisien, qui me surprenait un petit peu. Vous êtes même 22% à penser que ce conflit ne peut pas déborder, enfin, va rester contenu dans les frontières de l'Ukraine, finalement. Et je ne sais pas, 13%. C'est intéressant, quoi. J'en pense quoi, moi? Oh, j'en ai aucune idée. Alors, de temps en temps, modestement, je me permets d'émettre un avis sur l'actualité. Voilà, en vous disant bien que ça n'est pas de l'info, mais que ça n'est que mon analyse, et que ça vaut ce que ça vaut, parfois même de faire des projections, là, je n'en ai aucune idée. Hein. Sinon, je vous le dirai. Merci Adrien pour ton gentil message d'encouragement, c'est adorable. Ok. Donc, le sondage est terminé. 48%, vous pensez que ce conflit peut déborder vers d'autres pays, et vous n'êtes que 17% à penser que ça peut partir en troisième guerre mondiale. Ce que vous disiez un petit peu dans le chat, d'ailleurs, mais je voulais un petit peu en avoir le cœur net. Ah, c'est intéressant. Ok, je vous lis un petit peu et puis peut-être vous poser une autre question sur ce conflit d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, Black a raison. Black Sumon, on peut aussi lire ce sondage autrement. Plus de 65% du chat pensent que ça va s'amplifier. Oui, oui. Bon, après, c'est ce que dit aussi le sondage du Parisien. Sauf que c'est sur le truc sur la troisième guerre mondiale qui est vraiment très, 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 très différent. D'accord. Et en plus, la question, c'est pas va-t-il déborder, hein, c'est peut-il déborder, ce qui n'est pas la même chose. Donc, Black, quand tu dis que 65% du chat pense que ça va s'amplifier, non, 65% du chat pense que ça peut s'amplifier, peut et va, c'est pas la même chose. pour le coup, les mots sont importants. J'aurais pu écrire va déborder. Voilà. Mais vous n'avez pas une boule de cristal non plus. Hein. C'est pas le tiercé, quarté, quinté plus ici. On essaie juste de réfléchir à l'actu, quoi. Donc on évite de sortir le tarot et les cartes de Madame Irma, quoi. C'est pour ça que j'ai mis peut-il déborder, quoi. Restons modestes par rapport aux prédictions trucs, quoi. Et d'ailleurs, 65% des votants et pas du chat, tout à fait. Oui! C'est bien. Il y a les gens carrés dans le chat, c'est bien. Je lis encore un ou deux messages et mon deuxième sondage. Ça dépend de tellement de paramètres à l'issue de ce conflit, me dit Barbouillage, mais tellement. Je vous lis un petit peu parce que c'est assez passionnant. Je vois que certains suivent cette actu Ukraine avec beaucoup d'intérêt. Ok. J'ai bien envie de vous faire un deuxième sondage. Hop. Lequel ce serait? Ah oui, bah sur le soutien. Il y a un autre aspect intéressant du sondage du Parisien, hop, que je vous remontre, c'est... C'est ça. Les livraisons d'armes à l'Ukraine approuvées par 2 Français sur 3, 65%. Voilà. Vous en pensez quoi? Ou alors, autre façon de formuler cette question, sur les conséquences économiques. Ouais. J'ai bien envie de vous demander ça quand même. Parce que je suis étonné par ce chiffre. Je vais vous demander si vous soutenez, si vous approuvez plutôt d'ailleurs, les livraisons d'armes à l'Ukraine. Livraisons d'armes françaises. Nouveau sondage. Hop. Livraison d'armes. Livraison d'armes françaises à l'Ukraine. Ça rentre. 2 points. Il faut faire plus, parce que je suis sûr que certains vont me dire, ah oui, mais moi, je pense que non seulement c'est bien, mais qu'il faut faire plus, donc je vous mets, il faut faire plus. Deuxième choix, c'est bien, vous validez ce qui est fait, les canons César, etc. et tout. Pas de chars lourds, Leclerc pour l'instant, pas d'avion, voilà, les canons César, d'autres choses, voilà. C'est bien, voilà. Je vous propose, il faut faire moins, c'est-à-dire que vous ne dites pas qu'il ne faut pas livrer d'armes, mais il faudrait en livrer moins. Pourquoi pas? Je vous propose aussi, je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord pour livrer des armes françaises à l'Ukraine. Et je ne sais pas. Donc 5, voilà, j'essaie d'être le plus fin possible dans les propositions qui vous sont faites pour que vous puissiez vous retrouver dans le choix. Livraison d'armes à l'Ukraine, vous avez 5 possibilités. 1. Il faut faire plus. 2. C'est bien. 3. Il faut faire moins. 4. Je ne suis pas d'accord avec les livraisons d'armes françaises à l'Ukraine. 5. Je ne sais pas. Eden me dit, c'est question difficile. Si vous ne savez pas, vous vous dites je ne sais pas, bien sûr. C'est parti. Tout un art, les sondages. C'est pas facile, Tiers. C'est vrai. Le sondage, il est accessible. En quelques secondes, vous êtes déjà 300, 400 à avoir voté. Ok. Je vous lis. Hein. Alors, je vous lis pas trop pendant le sondage pour pas influencer le sondage, mais je vous vois plein de commentaires intéressants sur les livraisons françaises d'armes à l'Ukraine. Allez, je regarde maintenant. Ça donne quoi? Ça donne ça. Alors, les livraisons d'armes françaises à l'Ukraine, vous êtes 27% à dire qu'il faut faire plus encore. 34% à dire que c'est bien. Donc, le camp du OK pour les armes, voire un peu plus, ça nous fait 50. Ça, c'est beaucoup, hein. Ça nous fait 50, ça fait 61%. Et vous n'êtes que 4% à dire que oui, il faut livrer des armes, mais moins. que 18% à n'être pas d'accord, voilà, avec ces livraisons françaises d'armes à l'Ukraine, et 18% je ne sais pas. Donc vous êtes plutôt, par rapport à la moyenne des Français, qui ne sont que 65%, d'après ce sondage du Parisien que je vous remontre ici, 65% des Français valident le principe d'envoi d'armes françaises à l'Ukraine. Là, vous êtes plutôt à 71%. Vous êtes au-dessus de ce 65%. Voilà. Ok. Je vous remets votre sondage, le vôtre. Voilà. Vous avez le résultat. Et je vous lis un petit peu. Et on enchaîne avec c'est vachement intéressant, sur les dates clés d'un an de guerre en Ukraine. Ça va nous rafraîchir un petit peu la mémoire avec cette tragédie. Alors, je vous lis. Je suis en train de vous lire. Antoine, il faut faire plus. Que se passera-t-il si la Russie gagne cette guerre? Yanamad dit c'est très partagé. Toi, tu es peut-être très partagé, mais le sondage ne l'est pas. Pour le coup, c'est extrêmement clair. Little Phoenix, je trouve que c'est bien d'un côté, mais de l'autre, j'ai peur des représailles, donc je suis contre. Merci Kiwi Kaki pour le gentil message. C'est gentil. Radiateur qui fuit, je ne vois pas l'intérêt du sondage. Aucune personne sur ce chat n'a les compétences et les connaissances sur un dossier comme celui-ci. Nous devrions bien nous garder de donner notre avis fondé sur les informations qu'on a à gauche et à droite, peu importe notre suivi de cette guerre. Je ne suis pas d'accord tout à fait, Radiateur qui fuit, avec toi qui es un habitué de ce stream, et je te salue d'ailleurs. Vous êtes citoyen. Vous êtes citoyen d'un pays qui a pris position dans ce conflit en soutenant l'Ukraine face à l'assaillant russe. Vous êtes tous habilités à avoir un avis sur cette question, bien sûr, en tant que citoyen, de même que vous êtes tous habilités à vous prononcer sur des questions extrêmement compliquées, qui sont la manière dont on dirige notre pays au moment des élections. Alors c'est très compliqué, ça l'est extrêmement, et parfois on n'est pas sûr de prendre la bonne décision. Je parle du moment où on glisse son bulletin de vote dans l'enveloppe et dans l'isoloir, par exemple. Donc c'est toujours une mission très très compliquée, mais c'est pas parce qu'elle est compliquée qu'il ne faut pas la remplir. Et je ne suis pas sûr que nos députés soient beaucoup mieux informés et plus informés que nous. Je pense qu'ils lisent les mêmes journaux. Je ne suis pas sûr qu'ils aient accès à des sources d'informations beaucoup 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 plus complètes et fiables. Je ne suis pas sûr que ceux qui nous gouvernent soient plus habilités à avoir un avis éclairé et pertinent sur quelques questions que ce soit, l'Ukraine, l'écologie ou autre chose. Donc à partir du moment où on laisse nos élus, nos représentants que nous avons choisis au moment des élections, ben, prendre en main notre destin, issus de notre légitimité, de notre vote, eh bien, entre deux élections, eh bien, le citoyen il a aussi le droit d'avoir un avis. Voilà. Tu peux, et moi ça m'arrive souvent, dire « Oh là là, ce sujet je ne le maîtrise pas du tout, j'ai pas d'avis là-dessus ». Et tu préfères pas m'exprimer, tu peux dire ça, bien sûr, c'est une forme d'humilité. Mais dire que, comme tu viens de le dire, pardon, je te reprends, qu'aucune personne de ce chat n'a les compétences pour avoir un avis là-dessus, là, je pense que c'est très exagéré, puisque je pense que la plupart de nos élus et de nos gouvernants n'ont pas beaucoup plus d'infos que nous, quoi. Ni d'intelligence, d'ailleurs, je veux dire, pourquoi tu te sous-estimes et nous sous-estimes, pourquoi on serait moins à même que les gouvernants, en fait, d'avoir un avis sur quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il y aurait les dirigeants et puis les citoyens, l'espèce de... et nous, en mode seconde zone, en priant très très fort pour que nos dirigeants soient capables de décider, de prendre les meilleures décisions à notre place, quoi. Non, non, non. Je ne dis pas que c'est simple, mais on a le droit d'avoir un avis. C'est leur rôle, comme le dit Bibouchka, de décider, puisqu'on les a élus pour ça, mais on a le droit d'avoir un avis, bien sûr, quoi. Comme le dit Idée, c'est marrant cette tendance qu'on a à voir nos élus comme plus malins que le reste du monde. Oui, je pose cette même question. Pourquoi ils seraient plus malins? Pourquoi c'est... Vous êtes combien ce matin? Pourquoi les 4000 personnes qui sont là ce matin n'auraient pas le droit d'avoir un avis, en fait? Sans compter que cet avis, il n'est pas impactant. Hein. C'est pas nous qui décidons collectivement de la politique à mener en Ukraine, au nom de la France, quoi. Donc on a bien le droit d'avoir un avis, quoi. Et on a aussi bien le droit de ne pas avoir d'avis. Bon, mais dire qu'aucune personne de ce chat n'est légitime pour avoir un avis sur la guerre en Ukraine, bah dans ce cas-là, fin de cet exercice, quoi. Ne parlons pas d'actualité ensemble, puisqu'on n'est pas du tout habilité à avoir un avis, quoi. Et les journalistes non plus d'ailleurs, qui ne sont pas habilités non plus à nous parler d'informations, parce que qui sont-ils, et etc. Et puis les enseignants, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau pour enseigner nos enfants? Le débat est sans fin, quoi. Tu vois. Donc non, je pense qu'on peut en parler, clairement, quoi. On va faire un autre truc dans le Parisien. Hop, j'accélère un petit peu parce que je suis très bavard ce matin. C'est parce que j'aime bien être avec vous. On va revenir sur ces 12 mois de guerre. Parce que c'était vendredi prochain, vendredi 24, ça fera un an. Tout pile, tout juste que cette guerre a éclaté. Et en fait, le Parisien nous résume ça en 5 temps, en 5 points, et c'est plutôt bien fait. Il y a Idali qui dit, surtout quand on voit le comportement de nos élus à l'Assemblée, c'est un autre débat, mais tu as raison, on en parlera tout à l'heure. Merci Imhotep pour le 6e abonnement, merci Aveyarkov pour le 18e mois, ça fait quand même, hein. Tous les deux. The Servalou, merci pour le 9e mois, Cabiet. Merci beaucoup pour le 12e mois, pardon, j'avais pas vu les subs. TW, merci beaucoup pour cet abonnement. Broubo06, merci pour les bits. Et encore merci, Julien. La guerre en 5 temps. Hop, c'est parti. C'est page 6 et 7 dans le Parisien dimanche. Ça a commencé en pleine nuit. Une invasion en pleine nuit. Au matin du 24 février, Vladimir Poutine lance ses blindés à l'assaut de l'Ukraine. Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos montrant des colonnes de chars flanquées d'un Z, vous vous rappelez, franchissant la frontière depuis l'Est, le Nord depuis la Biélorussie et le Sud par la Crimée. La surprise semble totale, le mouvement de tenaille fatal. On pense que Kiev résistera au mieux une semaine, certains pensent 2 ou 3 jours. En réalité, l'opération militaire spéciale du Kremlin, puisque officiellement c'est toujours pas une guerre hein, côté russe, était redouté depuis des mois par les services secrets américains qui voyaient les exercices militaires russes se multiplier à la frontière ukrainienne. Voilà, ça a commencé il y a presque un an, tout juste. Deuxième temps, Kherson aux mains des Russes. Malgré les alertes répétées de Washington, les Ukrainiens sont pris de vitesse. Dans l'est, les hommes de Poutine encerclent Kharkiv, deuxième ville du pays. Au nord, les chars russes sont aperçus dans les faubourgs de Kiev, hein, la capitale quand même, hein. La situation au sud est catastrophique, le port de Mariupol résiste, mais le 3 mars, une semaine seulement après le début de l'offensive, le drapeau russe flotte sur la capitale régionale de Kherson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les progrès russes au début sur le terrain militaire ont été super rapides. Les sanctions économiques contre la Russie se multiplient. À l'époque, on ne parle que de sanctions économiques. Troisième point, la résistance de Kiev, et ça, vous vous en souvenez sûrement, c'est la grande surprise. La résistance des Ukrainiens. Fin mars, donc on est un mois après le début de la guerre. Je t'ai lu, radiateur qui fuit. Fin mars, le rouleau compresseur russe s'enraye. Les hommes sont épuisés. La résistance plus âpre que prévu. Avec le dégel, les blindés qui passaient fièrement les frontières quelques semaines plus tôt se retrouvent englués dans la boue. Les bataillons russes finirent par se retirer des environs de Kiev, ils avaient approché quand même la capitale. Et le Kremlin annonce que l'offensive se concentre désormais sur le Donbass, dans l'est du pays. Un mois après, eh bien, l'offensive russe, en gros, a échoué, quoi. 4. L'Ukraine reprend du terrain. Là, on est en septembre, à l'automne, début de l'automne, abondamment équipé en armes occidentales cette fois, hein, on est au-delà des sanctions économiques, il y a le soutien militaire des Occidentaux. Les hommes de Zelensky passent à l'action en septembre, feignant une contre-attaque dans le sud, ils lancent une manœuvre surprise dans l'est. Le succès est éclatant. Le 11 septembre, 3000 km² de territoire
aurait été repris. Poutine a mobilisé en urgence 300 000 réservistes et proclamé les régions occupées comme partie intégrante de la Russie. Rien ne semble contrer la contre-offensive. Deux mois plus tard, Kherson Sud est reprise par l'armée de Zelensky. Et comme le rappelle le défécateur officiel qui est avec nous ce matin, salut à toi, c'est la triste époque où on a découvert les charniers dans les faubourgs de Kiev et de Boutcha. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Cinquième point, et c'est là où on est aujourd'hui. Voilà, un an de guerre en Ukraine résumé en deux pages, c'est plutôt bien fait par le Parisien. Le front se stabilise, voilà où on en est. L'hiver gèle les sols et les manœuvres. On sait là où on est, hein, on arrive doucement vers le printemps. Au sud, les deux camps sont désormais séparés par le fleuve Dniepr. À l'est, les hommes s'enterrent dans les tranchées sommaires. Les combats ne cessent pas pour autant et redoublent même d'intensité quand les mercenaires de Wagner prennent l'initiative dans le Donbass. Le 13 janvier, au prix de pertes démesurées, ils s'emparent, on parle des Russes toujours, de Soledar, alors que l'Occident annonce la livraison de chars lourds à Kiev, vous le savez, hein, les fameux chars Léopard de conception allemande. C'est Léopard, hein. Ouais, c'est ça, je crois. Une grande offensive russe est attendu pour le printemps. Voilà où on en est. Gèle des positions, là, l'hiver, et on attend une offensive russe au printemps, d'où les appels répétés des autorités ukrainiennes, et notamment du président ukrainien Zelensky, de davantage d'armes lourdes, de chars, de tirs, de missiles à longue portée, ou encore d'avions pour reprendre le contrôle du ciel. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Il est difficile de simplifier et de simplifier sans dire des bêtises. Je trouve que le Parisien, je sais pas défécateur ce que tu en penses, nous résume très bien un an de guerre en deux pages. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Vous en pensez quoi? Peut-être tâcher un petit café. Ouais, le pont qui a sauté sur le fleuve, c'était quelque chose aussi. Holistou, perso, je pensais effectivement que la Russie allait réussir leur invasion en peu de temps. La résistance ukrainienne et de fait l'échec russe m'a vraiment étonné. Tu n'es pas le seul, tout le monde a été surpris à l'époque. Ninten75, je prends ton commentaire pour... y mettre un bémol. Tu dis, je me demande combien de gens sont conscients que les différentes informations qu'on a sur cette guerre sont soit de la propagande occidentale, soit de la propagande russe, et que la vérité se situe entre les deux sources. Non, en fait. Pour une simple raison. Simple raison, en fait. C'est que les médias ne sont pas libres en Russie. Voilà. Si tu as un peu travaillé sur le sujet, tu le sais. Les médias ne sont pas libres en Russie, de même que la parole citoyenne n'est pas libre en Russie, confère les arrestations de Russes qui ont manifesté contre ce conflit. Les médias occidentaux, qui sont très perfectibles, dont on peut améliorer la qualité de travail, bien sûr, dans une démocratie, tu peux critiquer autant que tu veux le pouvoir et les médias, et c'est très très bien comme ça d'ailleurs. Donc ces médias occidentaux, notamment européens, notamment français, qui ne sont pas parfaits, qui sont... parfois, d'ailleurs, qui peuvent se tromper aussi dans la façon dont ils racontent le monde dans lequel on vit, sont libres. C'est-à-dire qu'ils sont parfois sous influence politique ou économique, tu en penses ce que tu veux, c'est des débats qu'on a tous les jours ici, mais ils sont libres. Voilà. Donc c'est pas de propagande. Parce que ce n'est pas connaître le travail des journalistes français que je côtoie depuis 30 ans pour penser qu'un journal est un... outil de propagande. Un journal n'est pas un outil de propagande dans un pays comme la France. Il est perfectible, il est bon, pas bon, il fait son travail avec plus ou moins de rigueur. Parfois même, il est corruptible, confère l'info Rachid Mbarki, BFM, dont on a parlé ici. Donc il est faillible et il faut toujours prendre quelque information que ce soit avec la plus grande des prudences, même quelle que soit la qualité de la source, même si c'est l'agence France Presse, même si c'est Le Monde, etc. etc. Donc toujours un regard critique là-dessus. Mais il est libre. Il est libre de faire de la merde, mais il est libre. Et un outil de propagande, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça n'engage que moi, bien sûr, ce regard, bien sûr. Mais c'est le mien. Donc je le partage, puisque c'est ma chaîne. Merci Sierra Whisky pour l'abonnement offert à Caramba encore raté. Et merci Nero Dominicius pour cet abonnement à l'instant. Je sens que j'ai lancé un bon débat là. C'est intéressant parce que le dimanche matin, je touche souvent des gens qui sont pas forcément des viewers habitués et qui me posent des questions sur la Russie, sur le média RT, sur y a des on parle de C8, on parle de Cyril Hanouna, c'est intéressant. C'est pas voilà, c'est des sujets qu'on évoque régulièrement, mais que je vois plus souvent le week-end. Mais voilà, c'est des débats qu'on a eu à peu près 1 milliard de fois, quasiment tous les jours, donc je vais pas les relancer aujourd'hui. Je vous rappelle juste ce que je pense de considérer les médias occidentaux comme des outils de propagande, ce qui est un peu plus compliqué que ça en fait. Marmotta, merci pour le 9e mois d'abonnement. Et Château Lardon, 16e mois, ça commence à piquer aussi. Yes. On va revenir sur la guerre en Ukraine. Je crois qu'on aura un papier. Ouais, dans le JDD, qui est intéressant sur la position du président Macron. Alors, le président Macron, il avait été très critiqué en Ukraine. Vous vous souvenez ou pas? Au début de la guerre, parce que le régime ukrainien trouvait qu'il était trop pro-russe, qu'il disait notamment qu'il fallait que les deux parties se parlent, qu'il fallait arriver à des négociations de paix, voilà. Et notamment, il disait quelque chose, le président Macron, il disait qu'il ne fallait pas écraser la Russie, il fallait pas. Le terme exact, c'était il faut. Vous allez me le donner. Il faut pas. Humilier. Vous êtes trop fort, qualité du chat ici. Il fallait pas humilier la Russie. Vous savez quoi? Le président Macron, il dit toujours la même chose. Il l'a redit vendredi. On va se pencher là-dessus, c'est une interview dans le journal du dimanche. Ouais. Faut pas humilier Poutine, faut pas humilier la Russie. Exactement. On va en reparler de ça. Juste un truc alors qui peut sembler super léger par rapport au reste de l'actualité, à savoir la guerre en Ukraine, les 1 an dans quelques jours, et puis notamment la réforme des retraites, puisqu'on va en parler aussi ce matin, où on en est du débat au Parlement sur la réforme des retraites et de la mobilisation contre la réforme des retraites. Je vais vous parler un petit peu de Salto. Salto, c'était cette plateforme commune France Télévisions, TF1, M6, qui avait l'ambition de devenir le Netflix à la française. On a déjà parlé bon, en gros, de cet échec il y a quelques jours, puisque c'est acté, hein, c'est mort en fait. Salto, ça va fermer, voilà, le Salto raté, écrit MMG7F dans le chat. Donc on va en parler. Je vous en reparle un petit coup ce matin rapide. Pourquoi? Parce que c'est intéressant en fait de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Salto, le plus grand flop de l'histoire, dit Totif. Le plus grand flop, je sais pas, il y a eu Napoléon, la Bérézina, tout ça, mais c'est vrai que c'est un gros flop. C'est vrai que c'est un gros flop. Voilà. Netflix à la française, je m'excuse, je m'étouffe, dit Despi. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, tu vas voir, l'article en parle. En fait, l'erreur, c'est même d'avoir annoncé au début que ce truc voulait être le Netflix à la française, puisqu'au vu des moyens engagés, en fait, c'était juste, comme le dit Shay à l'instant dans le chat, tellement prévisible cet échec. Voilà. Sierra Whisky offre un autre abonnement à la commu, à Salto arrière. Merci. Pour l'humour et le sub, merci Yonge pour le 16e mois d'abonnement. Alors, je vous lis l'article sur Salto, je vous lis un petit horoscope, et puis je ferai un petit café, et après on ira sur la réforme des retraites, parce que là, sur où on en est à l'Assemblée, où on en est au Parlement, et où on en est dans la rue, c'est super important de faire un petit point en ce dimanche matin aussi. Let's go, Salto, histoire d'un fiasco. C'est le Parisien qui le dit, mais tout le monde le dit. Voilà, concurrencer Netflix avec Joséphine Ange Gardien, il y a Gandalf Listari qui rigole. Ouais, mais en même temps, oui, c'est un oui, c'est difficile de dire que c'était autre chose. On va voir. Contre vents et marées, la plateforme de streaming Tricolore était parvenue à tutoyer quand même le million d'abonnés. Hein, million d'abonnés, merci Hysteria Play pour le 16e mois. Elle fermera fin mars, 2 ans et demi après sa création, retour sur un gâchis français. Dégoûté, je zoome, désolant, inadmissible sur le groupe Facebook de fans Salto, la communauté, les smileys qui pleurent s'amoncellent après l'annonce, donc mercredi, de la fermeture, c'est officiel, hein, de la plateforme de streaming, le Netflix à la française, comme certains l'avaient dit, lancé en octobre 2020, donc 2 ans et demi, par TF1. par France Télévisions, par M6, qui va disparaître le 27 mars prochain, dans quelques jours, au grand dam de ses clients, parce que certains payaient hein, pour voir ce truc-là, qui attendent encore d'être remboursés. Faute de repreneurs, la quarantaine de salariés de l'entreprise va être licenciée avec une proposition de reclassement chez les anciens actionnaires. Quel immense gâchis peste cette semaine un membre de Salto, justement, pour qui sa société n'aura pas démérité, et qui dit « Malgré les difficultés, on allait passer le cap symbolique du million d'abonnés fin 2022 ». Donc quand même, c'est pas ridicule. Et on était fiers du chemin parcouru et tout s'écroule brutalement. On n'aura pas vraiment été aidé du début à la fin. Et cette phrase, elle est importante. On n'a pas vraiment été aidé du début à la fin. Alors, on peut se moquer, genre concurrencer Netflix avec Joséphine, Ange Gardien, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, ce Salto-là, ce Netflix à la française, cette plateforme de replay, là, TF1, M6, France Télévisions, a pas tellement été aidé par plein de trucs. Let's go. Au printemps 2018, l'annonce de la création de cette plateforme relève pourtant du petit miracle. Après une dizaine de tentatives d'union infructueuses durant la décennie précédente, les frères ennemis du PAF, TF1, France Télévisions et M6, concluent une alliance inédite. Sur le papier, c'est un peu fou quand même, en fait. Objectif, faire rapidement sortir de terre un service commun de vidéo à la demande par abonnement. Il faut dire que l'heure est grave avec un Netflix revendiquant déjà près de 3,5 millions de clients dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trois ultra concurrents qui se font la guerre depuis des années, TF1, France Télévisions, M6, qui du jour au lendemain décident de s'unir. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont les boules, parce qu'ils flippent évidemment de la concurrence accrue des chaînes de streaming, Netflix, et puis ensuite bien sûr Amazon Prime, etc. Et Disney+, j'en passe et des meilleurs. Donc alliance, les trois groupes voyaient leur audience se dégrader, notamment auprès des plus jeunes. Ils savaient qu'il fallait réagir vite et le faire seul était suicidaire. Ok, sur le papier, tout ça a du sens. Merci CF1042 pour le 10e mois d'abonnement. Le premier risque à se présenter, c'est celui d'une entente entre les trois géants de la télé française. Et là, on arrive à ce qui explique l'échec. Ok, ils se mettent d'accord pour s'unir et faire un truc. Mais en fait, entre eux déjà, TF1, M6, France Télévisions, et en raison de plein de règles mises en place par les autorités chargées de faire respecter la concurrence, en fait, il va y avoir plein de barrières, plein d'obstacles, plein de trucs à respecter dans cette union-là qui font qu'en fait le truc va être une usine à gaz impossible quoi. Malamida 35, joli pseudo, et fan de Bolide, merci pour vos abonnements. C'est parti. Pour un... C'est rien, c'est mon... C'est un mail chez moi, faites pas attention. Le ding ding ding, c'est chez moi. C'est parti, les soucis. Pour assurer le marché, Salto doit montrer patte blanche auprès des autorités anti-concentration. Le début des emmerdes, dit une salariée. Le lancement de la plateforme a été retardé de plusieurs mois par cette procédure, donc auprès des autorités anti-concentration. Voilà. On a mis un semestre rien pour savoir si notre dossier anti-concentration allait être vérifié par la France ou par Bruxelles. Okay. Un semestre. Validé à l'été 2019, alors qu'on en parle depuis le printemps 2018, la naissance de Salto se fait au prix d'une quinzaine d'engagements contraignants. Parmi eux, des quotas sur le nombre de programmes et d'exclusivité que chaque maison mère peut lui vendre. Voilà, beaucoup de règles, beaucoup de trucs, quoi. On a aussi dû monter une ingénierie dingue pour organiser la gouvernance de la société, souligne un employé. Des cloisons, des barrières en béton armé sont érigées entre chacun des actionnaires pour qu'aucune information ne circule entre eux. M6 et France Télévisions ne doivent jamais, par exemple, savoir à quel prix TF1 vend ses productions à Salto et vice-versa. Donc voilà. Des gens qui veulent travailler ensemble mais en qui il n'y a pas une énorme confiance quoi. Ces remèdes de cheval nous mettaient des bâtons dans les roues au quotidien, raconte un salarié. Comme si cela suffisait pas, l'épidémie de Covid vient retarder un petit peu plus le lancement de la structure. Ce parcours du combattant terminé, Salto voit finalement le jour le 20 octobre 2020 alors que l'idée est lancée 2 ans auparavant et est immédiatement moqué. Le Netflix à la française est résumé à la plateforme de Joséphine Ange Gardien qui vient lutter contre Netflix sur ses 135 millions d'euros de budget, ça peut paraître beaucoup, ne sont évidemment rien par rapport aux milliards mis chaque année sur la table par les concurrents américains, hein, Netflix et autres. Voilà. Un ancien de la maison reconnaît justement une erreur de communication en disant « on n'aurait jamais dû dire que c'était un Netflix à la française ». Voilà. Parce qu'en termes de moyens, mais c'était pas du tout ça, quoi. On était juste une plateforme de télévision enrichie, c'est ça qu'on aurait dû dire, un tout-en-un avec un flux live, avec des replays augmentés, avec des programmes exclusifs, mais pas un Netflix à la française. Voilà, donc il y a un petit problème de communication quand même là-dessus. Bon an, mal an, le service de streaming trouve néanmoins un public, bien aidé par la notoriété que lui offrent les chaînes de télévision de ses trois parents. Les fans, par exemple, des feuilletons Demain nous appartient ou Ainsi grand soleil, ils vont massivement. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent y voir leurs épisodes avec 2 jours d'avance. Voilà. Tenu secret, le nombre d'abonnés croît à chaque coup réalisé, comme l'acquisition des sagas Harry Potter ou encore des James Bond. Donc on serait aujourd'hui autour de 700 000 abonnés payants et on allait à la fin de l'année vers 1 million. Mais contrairement à ses concurrents américains, Salto échoue à être distribué par les opérateurs de télécom, hormis Bouygues grâce à TF1. Qu'est-ce qui se passe? Au fil des mois, le service de streaming voit ses maisons mères se recentrer sur leurs produits maison. Vous avez en 2021 et 2022 la 1 et puis la 6 qui lancent MyTF1 Max et 6play Max, deux services de replay enrichis payants, ce qui ressemble quand même beaucoup à Salto. Du coup, la concurrence vient des propres partenaires. Ambiance. C'est finalement Rodolphe Belmer, donc pour TF1, qui porte le coup de grâce à Salto, jugeant la structure pas assez rentable, trop complexe. Le nouveau patron de TF1 entend miser sur le streaming gratuit financé par la pub, modèle que plus proche de son métier historique de télé privée. En novembre, Rodolphe Belmer fait savoir son intention de retirer ses billes de Salto. M6 et France Télévisions suivent dans quelques jours. C'est terminé. Voilà, c'est assez clairement expliqué par cet article dans Le Parisien Dimanche pourquoi Salto, dès le début, en fait, était un peu condamné à échouer, en tout cas en tant que Netflix à la française qui n'a jamais vraiment été. Je vous lis un petit peu là-dessus, peut-être que vous avez une expertise sur le sujet, peut-être que certains même travaillent dans le secteur. Telos estime que le nombre d'abonnés est plutôt bien par rapport à la qualité des programmes. Palabule se moque un peu. C'était quand même bien pensé de vendre un abonnement pour regarder des séries gratos. Miley de Trip se moque de la grenouille qui se voulait faire aussi grosse que le bœuf. Exutoire très méchant, évolution de la cassette VHS tout au plus. Ouf, c'est dur ça. Voilà, remake. Ils auraient mieux fait de garder les millions pour créer de nouveaux programmes. Voilà. Quel était l'intérêt de Salto quand on retrouve les mêmes contenus sur les plateformes TV d'Isvrine? Bon, il y avait un petit peu d'exclusivité, des programmes mis en avant quelques jours auparavant, mais bon, alors c'est une vraie question. Absurde, une vraie bureaucratie soviétique, écrit Adrien. Tiens, vous voyez qu'il y a des spécialistes Clavakine. Mon petit frère a bossé chez M6. À l'époque, il a travaillé sur le projet Salto en 2019-2020. Et vous êtes plusieurs à me dire, dont Grou-Grou 17, ils ont aussi oublié le plus gros acteur français déjà présent sur le marché, Canal+, avec à l'époque MyCanal. Ils auraient dû aussi associer Orange, qui produisait quelques séries. On a compris quand même que tous ces acteurs de la télé française ont eu beaucoup de mal à s'entendre là-dessus, quoi. Ouais, je lis encore un ou deux messages. Et puis, petit horoscope, petit café, et on continue. 11h10. Oh, j'ai promis à Alain que je terminais le stream à 11h30. Je suis totalement à la bourre. Allez, je lis un message. Alors, Kalindi défend un peu la plateforme en disant quel intérêt? Bon, en fait, la centralisation des chaînes. Je regardais la télé sur mon ordi grâce à Salto, tout au même endroit, sans pub plus replay. Ok. Salut Joe. Nafouf, merci pour le message. Alors après, il y a... Ouais. Quelqu'un disait, ils ont oublié Canal. Canal+, il y a Accent Sucur qui dit, le jour où tu verras Canal+, uni à TF1, je te file 100 euros. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, petit horoscope. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, on a un jeu débile ici. Ne vous précipitez pas, je vais vous poser une question sur l'actu. Quand j'arrive sur la page horoscope et que je dis horoscope, La première qui m'écrit son signe astrologique dans le chat, je lui lis son signe. On n'y croit pas, c'est de la connerie. C'est pas très scientifique, mais ça nous fait marrer. Sauf que, en fait, là, vous êtes trop nombreux à avoir vu le coup venir, et donc je vais vous poser une question sur l'actu. Ok? Et le premier qui répond correctement à la question en m'écrivant à côté son signe astrologique, le tout sans faute d'orthographe, je suis chiant, hein, eh bien, je lui lis son signe. Alors, il faut que je réfléchisse à une question, par contre. Ah, qu'est-ce que je pourrais vous. C'est mignon, il y en a qui anticipe sur ma question, c'est trop chou. Oh, vous êtes trop forte. Trop forte, trop forte. Qu'est-ce que je pourrais vous demander? Attendez. Je vais vous trouver. Vous savez quoi, je vais aller dans les prochains articles. Trop facile pour vous, ça. Trop facile. Je vais aller dans un endroit. Je vous dis pas où je vais. Dans un endroit où il y a l'agenda de la semaine, c'est-à-dire les événements attendus de la semaine importante. Je vous dis pas où je vais. Je vais vous poser une question. C'est sur l'actu de la semaine. On va voir si là, là, il faut être calé. Ok, c'est parti. Tiens, pas mal ça. Ok, ok. Oh, ah ouais, j'ai trouvé. Vous êtes prêts? Ok. Je me recale. Ok, c'est parti. Ça y est, j'ai ma question. Donc, je vous pose une question. Il faut dans votre réponse, me donner la bonne réponse et dans la même réponse, votre signe astrologique. Attention. 3. 4. Quel est le titre du film de Spielberg qui sort mercredi et votre signe astrologique? Le titre du film de Spielberg qui sort mercredi, c'est parti. Je crois que c'est bon. Ouais. Alors j'ai chaussette, sagittaire, j'ai je ne sais pas, sagittaire, j'ai 49-3, balance, et j'ai comme 776 qui écrit Gémeaux, The Fablemans, je ne sais pas si je prononce très bien, j'ai des Frablemans, j'ai des... j'ai Bélier, Ant-Man, Léos, non, Ant-Man c'est sorti je crois mercredi dernier, non? Et puis c'est pas Spielberg surtout, ouais, c'est The Fablemans. Oh c'est mignon, il y a Malcrar qui a écrit The Noblemans, ouais. Alors c'est bon, c'est officiellement Gémeaux qui a gagné, je vais vous dire. C'est Corm 776, voilà, qui est Gémeaux et qui me donne de Fablemans. Alors j'ai failli vous mettre un article là-dessus ce matin. En fait, c'est donc Spielberg qui sort un film mercredi, qui en gros est basé un petit peu sur son enfance à lui, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas trouvé les papiers. Vraiment top, mais je suis sûr que d'ici mercredi, la sortie du film, je vous trouverai un joli papier pour vous parler de ce film. Je suis pas du tout sûr de la prononciation, par contre, de Fablemans. Taya a déjà vu le film d'ailleurs. Ok, donc c'est Gémeaux aujourd'hui, let's go, qui est aussi un peu peut-être voir la bande-annonce. Ok, ouais, c'est une bande-annonce. Ah ouais. Yofaro me dit le film un petit peu bidé aux États-Unis, mais apparemment il est bien. Ok. Ok, alors attends, YouTube, c'est où ça? YouTube, en fait, trailer de Fablemans. Je vais taper VOST, bien en anglais moi, chiant, je crois que je l'ai en VOST là. Et hop. Voilà.
Once there was a way. Most of my movies have been a reflection of things that happened to me. But in the sense of the Fablemans, it wasn't about metaphor, it was about memory. Once there
was a way. Sorry I'm late, I picked up Mrs. Fableman. Where should I put her? will sing a lullaby.
What kind of movie are we gonna make?
It's more important than your hobby.
Can you stop calling it a hobby?
That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother.
I don't know what else to do. Can you help me?
I don't want to disappoint you.
You do what your heart says you have to. Because you don't owe anyone your life.
I'm singing a lullaby.
22 février, donc c'est, oui, c'est mercredi, effectivement. Voilà la bande-annonce de Fablemans. Donc on a bien compris que c'est sur l'enfance et bah, la découverte d'une vocation hein, par Spielberg. Donc, de sa vocation étant de faire des films. Alors, j'en suis où ? Moi, je suis perdu. Voilà, à l'horoscope. Certains sont séduits, d'autres pas. On en reparlera, j'essaierai de vous trouver un joli article là-dessus. Non, j'ai pas vu le nouveau Ant-Man, je manque de temps. Dans une vie rêvée, j'irai au cinéma tous les jours, mais là, je manque de temps. Je remercie les derniers subs, on fait l'horoscope et je vais faire un petit café. Guiwi, merci pour ce 4e mois d'abonnement. Lucas, merci pour les bits. Tirelcor, merci pour le 6e mois d'abonnement. Et Sierra Whisky, merci pour les abonnements que tu offres à la commu ce matin, c'est adorable. Gémeaux, qu'est-ce que donne votre horoscope Gémeaux, puisque c'est les Gémeaux qui ont gagné ce matin. J'entends un petit solal qui arrive. Excusez-moi. L'alerte enfin. Solal, 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as des tennis Pikachu ?
Oui.
Elles sont trop belles. T'as des tennis Pikachu ? Elles sont quelle couleur ? Elles sont jaunes ?
Papa ?
Oui. Excusez-moi. T'es où ? Quoi ? Tu veux faire une chanson ? Allez, vas-y, appuie sur une touche. Oui. Celle que tu veux.
Elle peut pas écouter.
Tu veux écouter? Excusez-moi, c'est Solal qui joue à l'étape de mixage. Il va y avoir des petits bruits un petit peu forts, hein, faites pas attention.
Tiens, vas-y, écoute, vas-y, tu peux appuyer. Appuie.
Après les gens, ça leur plaît. Arrête.
C'est fini.
Elles sont très belles. Il m'a montré ses chaussures. Parce qu'on va sortir, on va se promener avec les chaussures Pokémon. C'est ça ? C'est ça, Solal ? On va se promener avec les chaussures Pokémon ? Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut enlever les lunettes pour le bain, c'est ça ? À tout à l'heure, Solal, d'amour. Petit chou. Alors, on était à Gémeaux, on va jamais lire cet horoscope. Oh, c'est parti. Il y a des magnifiques tennis jaunes Pokémon. En vrai, elles sont top, quoi. Oui, c'était son anniversaire il y a quelques jours, Nat. Il a eu 3 ans, mais quelques jours. Il est né le 12 février, choupitou. Gémeaux. Alors, cœur, vous ne trouvez plus aucune saveur aux aventures. Gémeaux, cœur, vous ne trouvez plus aucune saveur aux aventures. Alors, ça peut être une bonne nouvelle. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple et que vous ne trouvez plus aucune saveur aux aventures, c'est bien. Hein ? Ok. Si vous êtes célibataire, c'est moins bien. Réussite, faites un effort si vous... Non, là je suis sur Bélier, pardon. Réussite, votre dynamique vous pousse à agir plus rapidement que d'habitude, mais vous ne prenez pas assez le temps de réfléchir. Attention. Attention les Gémeaux. Dynamique, mais ne vous précipitez pas. Ok. Et puis la forme, Gémeaux, en vrai, c'est pas mal. Grande vitalité. Grande vitalité. Grande vitalité. Voilà. Gémeaux, c'est pas mal. Voilà. Surtout si vous êtes en couple et que vous avez décidé de mettre fin aux aventures, ce qui en vrai, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que Hugo, Eden et... J'ai l'impression que t'es Gémeaux, du coup, non ? J'ai l'impression. Non, c'est bien, Gémeaux, en fait. C'est bien. C'est bien, vous avez un bel horoscope. Les amis, 2h03 de stream. Ok, Hugo et Balance. Bon, donc, je te dis rapidement, Hugo, pour le plaisir. Cœur, vous devrez vous battre pour défendre votre place auprès de l'être aimé. Réussite, vous devrez préserver vos intérêts, votre ténacité, votre perspicacité. Bravo, vous y aideront. Forme, bonne résistance nerveuse. Ok, c'est cool. Les amis, je vais me chercher un petit café. Et puis, il faut que j'accélère un petit peu. Parce que j'avais promis d'arrêter le stream à 11h22. Je vais aller négocier un petit rab à la maison parce que j'ai pas mal de choses à vous lire, notamment sur la réforme des retraites. Je vous mets une petite musique, 3 minutes. Petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vais me chercher un petit café. Et on revient juste derrière, il y a encore plein de belles choses. Mais on a pris un petit peu de temps sur le biathlon, sur tout ça. A tout de suite, et merci d'être avec moi ce dimanche matin. C'est super gentil, vraiment. A tout de suite, et bon café. Hydratez-vous, c'est important de s'hydrater. Yes, c'est bon ça. Tout de suite. Go!
C'est bien ça. Bien ce morceau, on se le cale pour la musique de Red, puisque vous savez peut-être qu'on raid systématiquement en fin de stream ici. C'est comme ça que vendredi soir après l'hebdo Etienne, on a fait un joli raid vers Jean, l'ami Jean Massier, qui était en plein live de commentaires de la dernière ligne droite de débat à l'Assemblée nationale. Il s'est retrouvé à au moins à un moment de la soirée, et pas grâce au raid d'ailleurs, hein, tout simplement au fait que c'était juste génial, à plus de 14 000 viewers en pic, voilà, pour commenter un débat à l'Assemblée. J'étais super content, c'est un super travail. Jean Massier, John, j'y fus, tu étais John, 15 en pic, voilà, exactement, hein, me dit Captain Cosmos, 15K en pic pour Jean Massier, débat sur la réforme des retraites, c'était vendredi soir. Je trouve ça génial, voilà, c'est un des intérêts de Twitch, de partager ses passions. Jean, c'est pour l'actualité politique. Il y a pas mal de gens, de viewers qui étaient là, hein. Voilà. Et Jean était malade en plus, et il est parti se coucher vers minuit, me dit Imhotep. Ouais, parce que ça s'est terminé à minuit. Énorme pour un débat, c'est fabuleux. Ouais, je trouve ça formidable. C'est cool, hein, ce qu'il fait Jean, hein. C'est super. Et j'ai vu qu'il y avait vachement de monde, j'ai trouvé ça super. Ouais, Clamakin, chez toi, on était presque 13 en pic. Ouais, presque 14 en pic, on a fait vendredi soir. Ouais. Après, l'audience, c'est bien, on regarde pour voir si effectivement ça plaît aux gens, mais ça n'est pas tout. Mais c'est vrai que c'était une bonne émission aussi vendredi soir à la maison. Ça, c'est cool. T'inquiète, Rédacteur qui fuit, t'inquiète, j'ai vu tes messages, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est pas facile de résumer sa pensée en quelques mots dans un chat, je comprends bien, t'inquiète, no, pas de souci, ça le fait. Je remercie, on enchaîne. On va parler justement de réforme des retraites et puis de l'affaire Palmade, mais alors très brièvement, l'affaire Palmade. Très brièvement. Je vais vous expliquer pourquoi. Petit Lucky, merci pour le 3e mois d'abonnement. Foot03, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 14e mois d'abonnement. Tu n'as pas tout loupé. On va reparler de la réforme des retraites, de la guerre en Ukraine et d'autres choses dans un instant. Donc tu n'as pas tout loupé. Raté. Sierra Whisky, merci pour l'abonnement que tu offres à Mathieu T. MipMip33, merci pour le 9e mois d'abonnement. Merci Guiwi pour le 4e mois d'abonnement, hein, qui profite de la petite pause pour sub. Vous êtes super sympa. Merci beaucoup. Ah, il y avait aussi un concours d'éloquence de lycéens chez Klemovic qui était très bien. Ah, je sais. Je sais. Certains me parlent aussi d'un concours d'éloquence chez Klemovic sur Twitch, donc a priori. Et je le sais parce que j'étais invité, en fait. Il m'avait très gentiment invité, en fait, à participer. Et je lui ai rappelé que eh ben, le vendredi soir, je ne pouvais pas parce qu'il y avait l'hebdo Étienne. Voilà. Et on s'est régalé avec Laure Vallée, avec Kayane et avec Zach Nani. Tiens, d'ailleurs, vous voulez que je vous annonce la line-up de l'émission de vendredi prochain ou pas ? L'hebdo Étienne, je ne l'ai dit à personne. Vous voulez que je vous dise ? Alors, où est-ce qu'elle est ? Vérifions mes propres informations. Où est-ce que c'est ? Attendez. Je vais vous dire, c'est une belle affiche, hein. On va se régaler. Attendez, je vous retrouve le petit fichier où je marque tout ça. Toc. 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 Il faut que je le réouvre, je l'avais fermé. Pour être sûr de ne pas vous faire de dire de bêtises. Vous pariez sur qui, vous ? Une petite exclue, hein, je l'ai annoncé nulle part. Vous êtes prêts ? Il y a Jean déjà. Ouais, je crois bien qu'il y a Jean. Vous êtes fort. Hein. Alors attendez. Vendredi prochain, avant une petite semaine de vacances, pour Papy Sam, il y aura à la maison. Il y aura Jean Massier, donc d'accord, dont je viens de parler à l'instant. Il y a Poum qui parie sur une line-up de journalistes. Eh bien non, parce que Jean fait un travail journalistique, mais n'est pas journaliste. Hein. Il se considère surtout comme streamer, et il a bien raison. Il y a Constance Villanova, journaliste indépendante, qui fait un super boulot, que vous avez beaucoup aimé quand elle est venue la première fois, donc je l'ai réinvité. Et vous avez Ponce. Il y a l'ami Ponce. Voilà. Il y a les fleurs. Voilà. Il y a Ponce qui vient pour la première fois dans l'hebdo Étienne. Voilà. Voilà. La petite line-up sympa. Voilà. Et les fleurs qui pètent dans le chat. Et c'est parti. Et la semaine prochaine, Ponce, Jean Massier et Constance Villanova. Bien ou pas ? Bien ou pas ? La classe, non ? Ouais. Non, il n'y a pas Virginie Efira, il n'y a pas Elon Musk. Mais il y a Ponce. Voilà. Et je trouve ça super. Voilà. Je trouve ça cool que les gens sortent de leur zone
de confort. Moi, je demande à mes invités de parler un petit peu de l'actualité. Voilà. De parfois, bah, du coup, sortir de leur neutralité, de donner un petit peu leur avis sur la marche de notre pays ou du monde. Bah, en vrai, je trouve ça courageux. Voilà. Je suis pas sûr qu'on y ait beaucoup à gagner. Voilà. Mais donc, je trouve formidable qu'un streamer comme Ponce accepte de venir parler un petit peu de l'actu, quoi. Donc, Ponce, Jean Massier et Constance Villanova, qui est une super journaliste. Voilà. Ouais, c'est cool, hein. Il y a M. Von Digo qui dit Ponce, c'est un journaliste aussi, je le connais pas. Ponce, c'est un des plus gros streamers français, en fait. Hein. Ponce. Pour ceux, alors, il y a des gens dans le chat qui sont peut-être, qui connaissent pas forcément trop l'univers de Twitch, qui me demandent, mais qui est Ponce? Bah, les fleurs, là. Dites-nous. Hein, c'est le streamer aux fleurs. Voilà. Alors, comment résumer? Ah, c'est parti. MMG, Ponce, Avignonnais, ancien enseignant. Voilà. Le maître de la saucisse. grand fan de Nintendo. Mec super. Un des piliers du Twitch français, dit Andil. Bah ouais, carrément. Il aime le pastis, me dit Emilia. Ça, je savais pas, ça. Le maître des fleurs. Ouais. Ok. Le plus grand slow runner, me dit FRL. Ouais. Le frère caché d'étoiles, me dit Écureuil Fou. Ouais. Voilà. Et comme, tiens, Tiska résume bien. Il a créé un super jeu sur la culture G, donc c'est le maître des fleurs, c'est surtout. Hein. Et c'est un grand slow runner. Voilà. Shay 2, juste en dessous, c'est un type qui joue en slow run à plein de jeux, notamment Nintendo, et il prône la bienveillance sur la plateforme. Voilà. Et la maison de disques aussi. C'est vrai qu'il a lancé une maison de disques. C'est Ponce qui a lancé une maison de disques, c'est vrai. Et ça en est où d'ailleurs, ça, son label? Il commence à y avoir des trucs ou pas? Tiens, j'avais vu cette annonce, effectivement, vous avez raison. Ouais. Floral Records. Ouais. Et très gentiment, à mes tout débuts, quand je découvrais cette plateforme grâce à Étoile, il m'avait invité dans Ponce la Nuit, il m'avait invité au restaurant. Et on avait fait un long moment d'échange. Si vous tapez Ponce la Nuit, Samuel Etienne sur YouTube, vous trouverez ça. Yes, quoi. Ouais. Voilà. Son stream est une safe place totale. Son chat est super clean, me dit Tiska. Voilà pour la présentation de l'ami Ponce qu'on retrouve donc vendredi avec Jean Massier et avec Constance Villanova dans l'hebdo Etienne. On va se régaler. Chita, merci pour les beats. Florel, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Et on y va. Hop, la suite de la revue de presse. J'avais promis à mon amoureuse d'arrêter de streamer à 11h30. Il est 11h36. On se dépêche. L'affaire Palmade, c'est la une du journal du dimanche. Et je ne vais pas vous en parler. Parce que ce qu'on nous ajoute là dans l'affaire Palmade, c'est des petits détails sur l'enquête. On est dans le total fait divers. Hein. On est sur, alors, est-ce qu'il a insisté pour conduire? Il aurait dit aux autres passagers qu'il voulait absolument conduire. Qu'est-ce qu'il a pris exactement comme drogue? Quelles étaient ses relations avec les deux passagers, dont l'un était déjà condamné pour trafic de drogue? Voilà. On est dans le fait divers. Ça ne nous apporte pas beaucoup d'éléments de réflexion, de fond, sur le vrai débat. Qui est, qu'est-ce qu'il faut essayer de retenir de ce drame pour faire évoluer, je sais pas, la façon dont on s'occupe de la question de la drogue au volant, par exemple, dans notre pays. Voilà. Donc franchement, ça n'a aucun intérêt, c'est du fait div, vous trouvez ça partout sur Internet, donc je vais passer là-dessus, c'est la une du JDD. Voilà. Révélation dans l'affaire Palmade, en 2021, le comédien et un de ses passagers avaient déjà été impliqués dans une affaire de stupéfiants, évidemment, il s'appellerait pas Palmade, personne n'en parlerait. Donc c'est, moi ça m'intéresse pas, mais si ça vous intéresse, c'est sur Internet partout. En revanche, ça c'est intéressant. Et est-ce que de ce drame on peut tirer quelque chose de positif? Voilà. Est-ce que de ce drame, et notamment ce qui est arrivé aux gens qui venaient dans la voiture en face, et notamment de cette jeune femme qui a perdu son bébé, et ce petit garçon qui a été grièvement blessé, et le conducteur qui était en fait le beau-frère de la jeune femme, est-ce que de ce drame, merci Pépin Camille pour les 5 abonnements offerts à la commune, et merci Vulcanos pour le 12e mois d'abonnement, merci à tous les deux, merci beaucoup Camille, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de positif? Est-ce que par exemple on peut avoir une réflexion sur la drogue au volant, voilà, en France? Eh bien, il y a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui propose quelque chose, mais qui propose quelque chose je dis rien. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Voilà. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On y va. Il propose le retrait des 12 points de permis en cas de drogue au volant. Voilà. Ternalis dit, mais ça existe déjà, le retrait de permis pour les délits. Là, c'est le retrait des 12. C'est-à-dire, c'est... alors, c'est là où c'est pas clair. Est-ce que c'est... Déjà, il y a un truc qui va pas. Est-ce que c'est l'annulation du permis? T'as 12 points, t'en retires 12. Est-ce que c'est l'annulation du permis? Ou est-ce que c'est... On retire les 12 points, et puis on permet au conducteur de récupérer des points après. Voilà, voilà. Bon, déjà, c'est pas très très clair. Mais c'est nouveau. C'est le retrait des 12 points. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais que pour la drogue. Voilà. MTP dit moins 12 points, c'est l'annulation du permis. Voilà. C'est pas clarifié dans l'article, mais je pense que c'est ça aussi. On y va. Certains disent c'est 100% des magots. On y va. Le ministre de l'Intérieur souhaite renforcer la lutte contre l'usage de stupéfiants au volant. Je propose, dit le ministre, le retrait des 12 points du permis de conduire pour toute personne qui conduit alors qu'il a consommé de la drogue. Alors déjà, c'est pas clair. Parce que ce qu'il avait voulu dire, le ministre, s'il avait voulu dire « je propose l'annulation du permis pour toute personne qui a consommé de la drogue », ce serait clair. Hein ? « Je propose l'annulation du permis pour tous ceux qui conduisent après », ce serait clair. Le problème, c'est qu'on peut tout à fait perdre tous ses points et faire des stages pour en récupérer. Et dans ce cas, le permis n'est pas annulé. Donc, peut-être qu'il veut dire annulation du permis, mais je pense qu'il aurait pu être plus clair. Bon, mais ce n'est pas le plus important. Il propose également de rendre obligatoire une visite médicale de tout consommateur avéré de drogue pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne. Voilà. Je suis par ailleurs en lien étroit avec Éric Dupond-Moretti, donc c'est le garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice, pour renommer les homicides en homicides routiers les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Hein, voilà. Je continue avec une question du JDD au ministre. Les tests salivaires contre les stupéfiants ne distinguent pas les drogues aujourd'hui et la quantité de produits consommés contrairement à l'alcool. Quand vous soufflez dans l'éthylotest, on vous dit que vous avez consommé ou pas de l'alcool et on vous dit à peu près à quel niveau. Pour la drogue, non, c'est on et off, c'est oui ou non. Et ça ne vous dit pas forcément quelle drogue. Alors le JDD dit, ben ça pose problème quand même. Est-ce que c'est pas une difficulté? Réponse du ministre. Il y a d'abord une différence majeure à rappeler à tous. En France, la drogue est interdite à la consommation. Par ailleurs, nous travaillons sur des tests avec des entreprises spécialisées, notamment pour affiner les mesures. Et un appel d'offres a été lancé il y a plusieurs mois pour nous permettre d'augmenter le nombre des contrôles, notamment en direction des catégories les plus touchées par la consommation de cocaïne, les hommes plutôt jeunes et résidents dans les grands centres urbains. Ça, c'est les propositions du ministre. Un petit peu, voilà, en pleine affaire Palmade, quoi. Donc, un petit peu sur une vague d'émotion. Je ne dis pas ce que j'en pense, vous me dites ce que vous en pensez. Rein, pourquoi ils utilisent des formulations aussi ambiguës au lieu de dire les choses plus simplement? Moi, je trouve que c'est pas assez clair, effectivement. Mazev Youyou, le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment les moyens de quantifier la drogue dans le corps et encore moins de connaître une temporalité exacte. Exactement, d'où la question du JDD. Dans le cas, par exemple, du cannabis, qui n'a des effets que durant quelques heures, qui se détecte pendant 3 semaines. Un test ne permet pas vraiment de savoir de quel état du conducteur au moment où il est au volant. Ben, c'est exactement ce que dit le JDD, mais la réponse du ministre dit ben, « on va bosser sur des tests », etc. Quoi. Voilà. Alors, sur la question du retrait de 12 points, qui ne peut pas forcément être une annulation, il y a un vrai débat. Par exemple, quand tu sais que tu vas perdre tes points, tu peux avant, parce que parfois ça prend du temps, faire un stage pour récupérer des points. Donc si tu perds 12 points et que tu en récupères 3 avant, enfin tout un débat. Donc je trouve que la proposition du ministre, elle n'est pas claire. Scuti Cap, il ne faut pas faire de loi à partir d'un fait divers. Autrement dit, il ne faut pas légiférer dans l'émotion. Le MEF, cette infraction existe déjà, il n'a rien inventé, c'est juste une réaction pour donner l'impression aux gens qu'ils prennent en compte l'opinion publique. Je ne sais pas si le retrait des 12 points est possible aujourd'hui en cas de consommation de drogue. Attention, j'ai creusé un peu le sujet. Ce que j'ai vu ce matin, c'est qu'il pouvait y avoir effectivement un retrait, voire une annulation de permis pour, par exemple, un conducteur qui a pris de la drogue et qui a causé un accident grave, voire mortel, et ou slash en cas de récidive. Mais le ministre, il propose d'aller au-delà. Attention, le ministre, il est très clair, il dit, lui, il propose qu'en cas de test positif à la drogue, quelle drogue ? Cannabis, cocaïne, héro. À la drogue, il dit. Quelle dose ? Bah, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas mesurer. C'est le retrait du permis. On ne parle pas d'accident mortel, de récidive, de... Ça, c'est nouveau. Aujourd'hui, tu te fais choper avec de l'alcool en dessous de 0,8 ou au-dessus de 0,8 dans le sang, ben, t'as un retrait. Pour avoir une annulation, il faut vraiment que ce soit super grave. T'as un retrait, point, quoi. Lui, il dit drogue, on, off, retrait. Donc, ça n'existe pas. Pour le coup, je vois ce que tu veux dire. Il surfe un petit peu sur l'émotion, mais ce qu'il propose est nouveau. Ben, effectivement, alors, en gros, si on le prend au pied de la lettre, un joint fumé il y a 15 jours, 3 semaines avec des traces de cannabis dans le sang, bon, ben, tu perds ton permis, quoi. Ben, c'est là où c'est un petit peu flou quand même. Je vous lis un petit peu. Il faut arrêter d'empiler les lois dès qu'il y a un fait divers, me dit Erendil. Beaucoup posent la question de savoir si l'alcool, certes légal, n'est pas aussi de la drogue, hein, Place du Paradis par exemple. Brian me le dit aussi. Hein, on lise tout. Donc dans ce cas-là, l'alcool aussi, puisque c'est une drogue. Voilà. Et c'est vrai que Darmanin, il dit, pour expliquer la différence de traitement, drogue-alcool, il dit, ah, mais je rappelle que la consommation de drogue, c'est interdit, quoi. Et que l'alcool, c'est, même si c'est encadré, notamment dans l'excès, c'est autorisé, bien sûr. À minima, vous avez compris mon sentiment là-dessus, je trouve ça flou. À minima. Politique de l'émotion, dit Dorothée à la menthe. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire pareil pour l'alcool ? C'est bien si c'est l'alcool compris. L'alcool, c'est de la drogue aussi. Voilà, vous êtes très nombreux à faire cette remarque. Qu'en est-il des médicaments qui ont des effets et risques similaires ? Bonne question. C'est Marteau, je crois, qui a écrit ça. Je pense. Bon, alors, minute sagesse, vieux papy. Croyez-en quelqu'un qui n'a pas toujours été sérieux dans sa vie et qui a fait plein de bêtises et plein d'excès, à savoir moi, et j'en suis pas fier, même si avec la sagesse parfois viennent des comportements un peu plus respectueux des autres et de la société, et surtout des autres. On ne prend pas le volant quand on n'est pas apte à conduire, que ce soit en raison de l'alcool, que ce soit en raison de la drogue, que ce soit en raison des médicaments, que ce soit même en raison d'une ultra fatigue, quoi. Et là, c'est plus une question de loi. Ouais, comme John vient de dire, la fatigue. Que ce soit... Là, c'est pas une question de loi, en fait. C'est une question de vivre ensemble, en fait. Voilà. Adrien dit, si on n'a pas fait pipi. Bah, tu peux faire pipi dans une bouteille. Donc, voilà. Là, c'est plus une question de loi. C'est une question de vivre ensemble et d'attention aux autres. Je le dis d'autant plus que moi-même, dans ma jeunesse, j'ai été excessif dans mon rapport à la fête, pour dire les choses très sobrement, et que j'en suis pas très très fier, et que s'il n'y a pas mille trucs que je changerais dans ma vie, pas mille, voilà, j'assume globalement ce que j'ai fait, y compris mes erreurs, s'il y a bien un truc que je ne referais pas, et que j'ai un peu honte d'avoir fait, mais parfois quand t'es jeune, t'es con, c'est d'avoir conduit, alors j'étais pas en état de conduire, quoi. Et que tu mettes ta propre sécurité ou ta santé en danger, bon bah ça c'est ton problème, mais au volant tu mets la vie des autres en danger, et ça en vrai c'est pas cool, quoi. Donc si jamais vous êtes encore dans des périodes où la fête et les excès sont présents, ce qui est caractéristique de la jeunesse, parce que parfois il faut un petit peu tenter des choses et brûler la vie par les deux bouts, faites-le de telle sorte que ce soit pas en mettant la vie des autres en danger, quoi. Voilà, j'en parle d'autant plus que moi-même j'ai pas été parfait là-dessus. Voilà. Et pour moi, c'est le seul truc intéressant dans cette histoire, en fait. C'est pour ça que l'enquête sur Palmade, qu'est-ce qu'il a pris, à quel moment, avec qui, etc. et tout, ça c'est du fait div, ça peut vous intéresser peut-être, mais je pense que c'est pas ça qui est intéressant dans cette histoire. Voilà. On va parler de la réforme des retraites, parce que ce qui est intéressant dans ce papier du Monde qui arrive, c'est bah, où on en est aujourd'hui. Un, du débat au Parlement sur la réforme des retraites. Deux, de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Donc là, ce matin, je veux absolument parler de ça avec vous. Mais d'abord, juste, on revient à la guerre en Ukraine. Donc, vendredi, ça fera un an tout pile que la guerre a débuté. Et juste, un petit coup de projecteur signé du Journal du Dimanche sur la position du président Macron. Qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, je remercie Néférim pour le 18e mois d'abonnement et le gentil message. Et bonnes vacances à toi. À Antoine Fou, merci pour le 2e mois d'abonnement. Cheetah, merci pour les bits. Lionel P2, merci pour le 10e mois d'abonnement. Et Camille, merci encore pour les 5 abonnements offerts à la commu. Je vois plein de messages très intéressants sur l'addiction et la conduite au volant. J'aurais très envie de lancer un débat avec vous là-dessus, mais je vais manquer un petit peu de temps, mais on aura l'occasion d'en reparler. La position du président Macron. Macron ne veut pas écraser la Russie. Emmanuel Macron évoque les suites du conflit en Ukraine. Comment on va sortir de ce truc ? À un moment, il faut se poser la question, quoi. Dans un entretien qui a été accordé au Journal du Dimanche et au Figaro et à France Inter, c'était vendredi, et le JDD y revient aujourd'hui. Pour lui, aucun des deux camps ne peut l'emporter et les Européens seront les principales victimes d'un conflit sans fin. Let's go. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Macron, je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position. Mais je suis convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement. Je ne pense pas, comme certains, dit-il, qu'il faut défaire la Russie totalement, qu'il faut l'attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Ça n'a jamais été la position de la France et cela ne se l'aura jamais. Quand il parle de qui veut écraser la Russie, il pense naturellement aux pays de l'Est de l'Europe, membres de l'OTAN et de l'Union européenne, dont certains dirigeants n'avaient pas apprécié sa formule au début de la guerre. Il ne faut pas humilier la Russie. Finalement, un an après, il dit à peu près la même chose, finalement. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'Ukraine mène une offensive militaire qui perturbe le front russe afin de déclencher le retour aux négociations. Il sous-entend ainsi qu'il faut faire mal à la Russie, mais sans que cela soit perçu comme une vengeance. Alors, il y a plein de personnes dans le chat qui se posent des questions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bombarder gentiment ? Ça veut dire soft bombing ? Voilà. Certains sont un peu circonspects sur cette histoire de taper, mais de ne pas taper trop fort. Essayons de comprendre un petit peu cette position. Il dit, aucun des deux côtés ne peut l'emporter entièrement. C'est son sentiment. Il redoute un conflit sans fin, dont finalement... ce seraient les Européens les principaux perdants. Du coup, le Journal du Dimanche s'interroge. Est-ce que l'OTAN devrait renoncer, par exemple, à préparer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, adhésion que a réclamé encore vendredi le président Zelensky. Pour Emmanuel Macron, l'alliance, l'OTAN, n'est pas le bon instrument pour repenser sa relation avec Russie. Il ne le dit pas clairement, mais il le dit clairement. En gros, il dit faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, en fait, ce n'est pas la bonne idée si on veut mettre fin à cette guerre et réussir à renouer le dialogue avec la Russie. C'est ce que dit Macron. L'alliance n'est pas le bon instrument pour repenser la relation avec la Russie. Ses membres, dit Macron, les membres de l'OTAN, n'ont pas été clairs dans le passé sur leurs intentions, ce qui, d'après Macron, a été considéré par les Russes comme de l'expansionnisme. Macron ne dit pas que Poutine a raison de dénoncer l'expansionnisme de l'OTAN, mais il dit que le comportement de certains membres de l'OTAN ont pu le laisser penser à Moscou. Et le JDD qui écrit, cela ne justifie pas le comportement de Vladimir Poutine, donc agresser un pays, mais explique en partie ses actes et son discours violemment anti-occidental depuis son discours de 2007. Voilà. Certains sont un peu interloqués. Foi jaune écrit, en fait, ce qu'il va réussir à faire, c'est se mettre à dos tous les pays de l'Est. Voilà pour la position du président Macron qui fait beaucoup réagir. Faire entrer l'Ukraine à l'OTAN, c'est mettre de l'huile sur le feu, inciter la Russie à lancer une guerre mondiale, dit MMG 7F. Je vous lis. Joli. Marteau, il fait un peu les girouettes, le président Macron, il fait des déclarations guerrières pour après les amenuire comme pas peur de Poutine. Non, pour le coup, sur la Russie, il est assez constant quand même, Macron, là-dessus. Ne jamais humilier l'ennemi, une des premières règles de l'art de la guerre, me dit Lemon. Les Français ont humilié l'Allemagne en 1918 avec le traité de Versailles. On a vu les conséquences, nous rappelle Pirenne. Voilà. Tidadef, on peut blaguer de tout, je suis assez d'accord quand c'est assez bien fait. Tidadef nous propose d'installer Salto en Russie. En vrai, je valide la blague. Klamakin nous rappelle qu'Hitler est arrivé au pouvoir notamment parce que le sentiment allemand était le suivant. La France avait humilié l'Allemagne à Rotonde, traité de Versailles. Je crois qu'on ne veut pas faire pareil. Tout ça est assez juste. Hein. En tout cas, on peut parfois tirer certaines leçons de l'histoire. Ne pas humilier, c'est la base pour ne pas avoir le retour du bâton, me dit My Little Trip. Jérém Chaï, Macron reconnaît les torts qu'a pu faire l'OTAN dans cette histoire et c'est un bon point, je pense, dis-tu. Je trouve que Macron est le seul dirigeant qui pense à l'après-guerre et de manière rationnelle, estime Kyriam. C'est la Russie qui a agressé la première, dit Ikmuzun, sur le point de l'invasion de l'Ukraine. Sur ce point-là, évidemment, il n'y a pas photo, évidemment. D'après moi, Macron a raison de ne pas aller trop vite sur la question de l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN, dit Farketchup. L'Ukraine dans l'OTAN, c'est une folie, dit Baradim. Ok. Intéressant. Bon, voilà en tout cas pour la position du président Macron, qui pour le coup est assez constante depuis un an, à savoir qu'à un moment, il faudra bien qu'on parle de paix, qu'on mette les deux parties au conflit autour de la table, et que il faudra trouver une façon de sortir de ce conflit. D'après le sondage posé par Le Parisien aux Français, une majorité de Français pense que ça n'est pas militairement qu'une solution sera trouvée, c'est-à-dire une victoire ou des Ukrainiens ou de la Russie, qui semble quasiment impossible aujourd'hui, mais bien d'un accord de paix. Quel accord de paix? Avec quelles concessions de part et d'autre? C'est toute la question, bien sûr. Je ne voulais pas terminer ce stream, j'attends d'un instant à l'autre un rappel de la famille pour les déjeuners, sans vous parler de la réforme des retraites, bien sûr, parce qu'on est à un moment clé. Hein. On a eu la présentation de la réforme par le gouvernement, on a eu les premières manifestations avec beaucoup de monde dans la rue, on a eu une première semaine de débat à l'Assemblée, là, ça part au Sénat maintenant, qui s'est, disons-le, très mal passé. Faisons un point, grâce à la dernière édition du Monde, regardez, retraite 2 points, fin du vote sans débat. Tronqué. Les débats à l'Assemblée se sont achevés dans la confusion vendredi à minuit. Vous avez pu le suivre en direct sur la chaîne de Jean Massier sur Twitch. Sans vote sur le texte qui reporte donc l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, puisque c'est l'essentiel, le point central de cette réforme. Chaque camp, à qui la faute? Chaque camp se renvoie des responsabilités dans cet échec. Les oppositions dénoncent le choix du gouvernement, par exemple, de recourir à une procédure accélérée. Et puis, vous savez, le gouvernement reproche notamment à LFI d'avoir déposé des milliers et des milliers et des milliers d'amendements. La stratégie, justement, d'obstruction des députés de LFI, avec 13 000 amendements, laisse la NUP profondément divisée, parce que socialistes, communistes, écologistes n'étaient pas super d'accord avec LFI là-dessus. Donc, vous avez une gauche qui est assez fracturée aujourd'hui. Voilà. À gauche et dans les manifestations, la tentation de la radicalité monte face au constat de l'impuissance à faire retirer à l'exécutif son projet. Cette question de la radicalité, ou radicalisation plutôt, du mouvement contre la réforme des retraites est assez intéressant. On va en parler. Hop, voici. D'abord l'Assemblée. On fait un point sur cette semaine. Une semaine de débat sans vote. Dans le chaos, ça a été bien agité cette semaine. Je ne suis pas sûr que le spectacle de ce qui soit passé à l'Assemblée nationale cette semaine soit de nature, comment dire, à redorer la vision qu'ont les Français de la politique et des politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Les discussions ont pris fin donc vendredi à minuit, sans que les députés aient pu voter le texte ni examiner l'article 7, l'article de report à 64 ans. Le Monde qui écrit: que restera-t-il de ces 10 jours où la réforme des retraites a fait vaciller le palais Bourbon? Les débats à l'Assemblée se sont achevés dans la confusion la plus totale vendredi soir. Sous les huées de la nouvelle Union populaire économique et sociale, bon, bref, la NUP, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a mis un terme aux discussions conformément à l'article 47 alinéa 1, c'est un article qui n'est pas très très connu de la Constitution, mais depuis quelque temps on en parle beaucoup, qui permet au gouvernement de limiter les débats au Parlement, donc 50 jours en tout, notamment 20 jours à l'Assemblée, en première lecture. Le choix de cette méthode impose aux sénateurs d'examiner maintenant le texte en 15 jours, dès le 28 février. Donc, comment ça, dès le 28 février ? Ah, je pensais que ça commençait demain, moi. Il y a des gens qui suivent ça ? Le texte, il va au Sénat à partir du 28 ? Je pensais que ça commençait demain, moi. Vous avez l'info sur le Sénat ou pas ? C'est le 28, maudit Marthe. Ah donc, pendant une semaine, il y a rien ? Edgar me dit ok. Oh, ok. Ah, c'est pas lundi. Chargio me dit, j'ai cru demain aussi, mais c'est à partir du 28. Il y a une semaine de congé. Benoît me dit qu'il y a des vacances. Ok. Ok. Bah, vous voyez, ok. Ouais, merci au chat. Je donne une info, vous la précisez, vous la corrigez. Donc, ça repart au Sénat le 28. Ah, vacances parlementaires. Ok, d'accord. Okay. D'accord, ok. Ok. Ouais. Ok. Bon, l'article 47, on le connaissait. Bon. Ok, donc ça repart le 28. Une commission mixte paritaire, une CMP, sera ensuite convoquée à la mi-mars pour trouver un accord bicaméral entre les deux chambres, alors que la date limite d'examen au Parlement est fixée au 26 mars. Bon, l'article 47.1, c'est super simple, c'est une accélération, une réduction du temps accordé au Parlement pour débattre d'un texte, hein, 50 jours au total entre l'Assemblée, le Sénat et la CMP, la commission mixte paritaire. Bah, du côté de l'opposition, on dit c'est l'accusation classique de déni démocratique. Pourquoi limiter le temps sur une question aussi importante ? Jusqu'à la dernière minute, vendredi soir, les passes d'armes, souvent violentes, se sont cristallisées entre élus de gauche et notamment le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Au cours de ces deux dernières semaines, deux élus de la France Insoumise ont été sanctionnés pour leur comportement contre le ministre du Travail. Il y en a un qui a été exclu 15 jours de séance, par exemple. Un deuxième qui a reçu un rappel à l'ordre après avoir traité le ministre du Travail d'imposteur et d'assassin. Ça a été assez animé. Alors lui aussi, il s'est animé, Olivier Dussopt, en fin de semaine. Vous m'avez insulté pendant 15 jours, mais personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme. C'est égosillé le ministre du Travail en s'en prenant aux élus LFI qui étaient en train de quitter l'Assemblée en chantant, je crois. Sur les coups de minuit, les voix du ministre du Travail peinaient à couvrir les champs des élus et les filles, décidées à maintenir leur mécontentement sur l'arrêt des débats. On est là, et si Macron ne veut pas, on est là, ont-ils entonné, donc la chanson, reprenant un chant entendu d'habitude dans les manifestations de rue. Et puis, pendant qu'ils descendaient les marches de l'hémicycle, les élus de la coalition présidentielle, les Républicains et les élus du RN aussi se sont levés, eux, pour chanter la Marseillaise, voilà, certains disent cours de récréation dans le chat, pour couvrir le refrain de la chanson des Insoumis. Oui, c'est pas... Bon, je suis sûr que... Tiens, si je vais sur le compte de Clément Viktorovitch ou de Jean Massier, je vais trouver peut-être une petite vidéo là-dessus. Tu es où mon ami Jean ? Il a sûrement posté une petite vidéo, je pense. Ou pas. Je sais pas si Jean, il poste des petites vidéos... Jean était à bloc. Non, il n'est pas posté. Voilà, on va taper Assemblée Chant, peut-être. Montre un petit peu l'ambiance. Alors, ça, c'était encore après. C'était dans la salle des quatre colonnes. Je chantais la Marseillaise, moi. Oh là, l'ambiance. Oh le bordel. Voilà. Alors c'est une vidéo, soyons précis, postée par un député Renaissance. Donc on est côté Marseillaise. On est côté Marseillaise pour répondre au chant des LFI. Ambiance à l'Assemblée.
Yeah.
Voilà, on peut en trouver d'autres, hein, je pense. Voilà. Sous d'autres angles. Alors, certains disent que c'est un chant typique des manifestations des Gilets jaunes. Bon, il y a d'autres moments de chant comme ça. Voilà. Bon, ambiance, quoi. Ambiance, vous en pensez quoi, vous, d'ailleurs? Comédia dell'arte. Lige dans le chat. Voilà, ambiance fin de soirée au rosé. Ça ne donne pas envie de voter ce genre de truc. Voilà ce que je lis dans le chat. C'est Usul qui écrit ça. C'est d'une tristesse, c'est une honte, ces enfantillages. Voilà, ils n'ont pas fait de pom-pom à la fin de la Marseillaise. Ça ne compte pas. Ma classe de CM2 était mieux tenue, me dit J'ai perdu un pari. Gandalf, la cour de récréation. Voilà pourquoi je ne vote pas. Voilà. Non, mais en vrai, vous avez raison. Moi, je reprends à mon compte le message de Antoine86 qui dit c'est pas très malin comme spectacle. Bon, alors après, que dans. Bon, essayons de trouver des excuses. Ils discutent, ils débattent depuis des jours, ils sont opposés, ils sont pas d'accord, ils s'affrontent, ils s'insultent, ils s'invectivent. Alors, on pourrait dire, bah oui, mais alors ils sont convaincus, ils sont passionnés, donc à un moment, les esprits s'échauffent, les insultes fusent, voilà, on se prend pas par le col encore en France, ça va. Et puis on chante, bon. Ça, c'est pour. J'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur tête. Mais, ceci étant dit. Une fois qu'on a dit que oui, ils sont peut-être un peu pris par l'enjeu et voilà, ils se chauffent un peu, bon, peut-être un peu fatigués, les débats durent très longtemps. Une fois qu'on a dit ça, on a un problème. Les Français votent de moins en moins. Le taux d'abstention explose et progresse à chaque élection. La légitimité de nos élus, président de la République, députés, ne cesse de s'affaiblir, puisque moins tu as de gens pour voter pour eux, plus leur légitimité est faible et plus elle peut être dénoncée, et notamment par la rue. Voilà. Quand tu as ce problème-là, qui est un vrai problème démocratique, auquel il va falloir répondre, peut-être avec une réforme des institutions, par exemple, reconnaissance du vote blanc, plein de choses comme ça. Quand tu as ce problème-là, bah, tu essaies de donner une belle image de la politique. Voilà. Comme dit Erekis, ils sont fatigués pour 15 jours de débat, mais nous, on doit bosser 2 ans. Oui. Mais t'es tout nu. Excuse-moi, c'est Solal, 3 ans. Mais t'es tout nu. Mais t'es tout nu. Oh, mais pourquoi t'es tout nu? C'est bon, la caméra est. C'est bon. Et pourquoi il est tout nu, lui? Oh, tu t'es fait bobo? Oh, contre la table de mixage? Attends, je vais te faire un bisou magique. Viens. Un bisou magique. Un bisou. Fais-moi un bisou magique. Et si je te mangeais? Et si je te mangeais? Qu'est-ce qu'on mange ce midi?
Des pâtes.
Tu manges des pâtes?
Tu manges quoi?
On mange une tarte à la tomate, ça te plaît? Et tu veux des pâtes aussi? Et tu veux quoi encore? Est-ce que tu voudras que je te...
Des spaghettis bolognaises?
On a ça? On a des spaghettis bolognaises? Oui. Tu veux des spaghettis... T'aimes bien les spaghettis bolognaises? Oui. Et est-ce que tu veux que je te fasse goûter du chocolat tout à l'heure? Parce que j'ai eu des plaquettes de chocolat, une candidate de questions pour un champion.
Mais
5 ah, une dame qui vient de Côte d'Ivoire, je crois. Du chocolat ivoirien. 5 carrés. Ok. J'en ai plein, je te ferai goûter. Donc je disais, avant d'être interrompu par notre petit chouchou d'amour, voilà, quand on a ce problème de baisse de participation aux élections et d'abstention, on essaie de donner le plus beau visage possible de la politique en France pour essayer de donner aux Français de s'intéresser à tout ça, quoi. C'est son doigt qui est coincé. Mon pauvre Solal. Ton doigt, il était coincé dans la manche. Ben oui, mais on l'avait pas vu. Non, là, je termine la retraite et puis hein, c'est bon. Je t'aime. Mon système. Donc voilà, et bon bah là, donc quelle que soit la fatigue de nos élus et la passion, encore une fois, moi j'arrive à comprendre un petit peu pourquoi ils se mettent dans cette tête là. Une fois qu'on a dit ça, voilà, qu'ils fassent attention au spectacle qui renvoie de la politique, quoi, qui participe un petit peu à cet effort. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, c'est plus facile d'être là où je suis que dans l'hémicycle, à mon avis, et je serais bien incapable d'assumer de telles fonctions, je peux vous le dire. Donc voilà pour l'ambiance. Ça chante, ça chante, ça chante. Que dit d'ailleurs Elisabeth Borne à ce propos ? À propos des élus LFI chantant à l'Assemblée, fondamentalement, vous ne croyez pas à la démocratie. Vous la minez en la transformant en cirque. Bon, ça c'est pour le cirque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fond aussi. Sachez que au cours de cette dernière journée, les élus de la NUP ont réclamé de prolonger les débats. Hein, de prolonger les débats, voilà, au-delà de la date fatidique. Mais pour le reste de l'hémicycle, la vérité est tout autre. Ce sont bien les 75 députés insoumis qui ont généré l'enlisement des débats avec ces milliers d'amendements. Qu'est-ce que vous avez apporté aux Français ? A lancé le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Cette stratégie d'obstruction, hein, déposer des milliers d'amendements finalement pour qu'on n'ait pas le temps de se pencher sur le texte et notamment sur l'article 7, le plus important. D'ailleurs, c'est fait critiqué par les écologistes, les socialistes et les communistes. Donc, tension au sein de la NUP sur cette question. Voilà. Les frictions entre les quatre entités de la NUP se sont accentuées au cours des derniers jours. Pressés notamment par l'intersyndicale, les élus socialistes, communistes, écologistes ont retiré, eux, mercredi et jeudi, massivement leurs amendements. Les députés LFI, comme leur a demandé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, ne l'ont globalement pas fait. Voilà. Conclusion de l'article. Aujourd'hui, quel bilan on peut tirer cette semaine à l'Assemblée ? Une certaine frustration domine chez les députés. Ces deux semaines sous haute tension jalonnées d'injures, de menaces, on parlait du spectacle de la politique, de mauvaise foi, souvent poussées à l'extrême, ont ramené les débats parlementaires à quoi ? À un jeu tactique, à un jeu. Et la politique, c'est pas un jeu. Et là, c'est un peu ce qu'on a vu, à un jeu tactique. Omettant la clarté du débat politique. On n'a pas parlé du fond. On n'a pas parlé du fond. Très peu. J'ai le sentiment que nous avons donné un élan extraordinaire au populisme, à l'antiparlementarisme, à l'abstention, a constaté un député qui s'appelle Michel Castellani. Pour sortir par le haut de cet épisode, où l'Assemblée s'est elle-même affaiblie, ça qui est dommage, le camp présidentiel s'est mis maintenant sur les débats plus tranquille en général au Sénat, quand les députés de gauche, eux, eh bien, se focalisent sur la rue, la mobilisation dans la rue, et notamment la journée d'action du 7 mars. Allez, je vous lis un petit peu, parce que là, c'est juste le regard du monde là-dessus, peut-être que vous avez un autre regard. Voilà, c'est tristesse tout ça, dit Misette, par exemple. Alors après, tort partagé, hein. C'est aussi le gouvernement qui décide, certains le soulignent, d'utiliser l'article 47.1 pour consacrer assez peu de temps à l'examen d'une réforme qui est essentielle. Donc peut-être qu'on peut estimer que les torts sont partagés sur le fait que l'Assemblée n'ait pas vraiment été évoqué le fond de cette histoire, quoi. Oui, c'est vrai, Radbabel, en fait, je suis d'accord avec toi, mais je vais mettre un bémol. Radbabel dit, il connaît bien l'histoire politique de notre pays, et dit, c'est d'avoir la mémoire courte que de dire que ces débats sont plus agités que d'autres débats parlementaires. C'est vrai ce que tu dis. L'Assemblée, sous la 5e, et sous tous les régimes d'ailleurs, en France notamment, mais partout, c'est pareil. L'Assemblée nationale est un lieu de débat, certaines colères sont saines, oui, rien d'original dans ces échanges parlementaires. Tu as raison, c'est pour ça que moi aussi je trouve, sinon des excuses, en tout cas des explications à ce comportement des députés. C'est aussi le signe d'une forme de passion pour le débat politique. Mais, dans une démocratie qui est aussi une démocratie médiatique aujourd'hui, où les Français vont voir ce spectacle sans forcément bien le comprendre, et estimer que nos élus se comportent comme des enfants, dans cette démocratie qui est une démocratie parlementaire, qui est une démocratie représentative, mais qui est aussi une démocratie médiatique aujourd'hui, eh bien il faut faire attention au spectacle que tu envoies. Et quand ce genre de comportement était possible sous la 4e ou la 3e ou même au début de la 5e, quand ces images, eh bien, on les voyait pas en boucle sur les chaînes d'infos et sur TikTok et sur Twitter, etc., eh bien, c'était moins grave. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que les élus doivent faire attention plus qu'avant à l'image qu'ils renvoient de la politique. C'est pour ça que c'est le petit bémol que je permets de mettre. Yves-Marc, merci pour le 17e mois d'abonnement. Despotique, merci pour le 18e mois d'abonnement. RoxMGR, merci pour le Prime. Neferim, merci pour le 18e mois d'abonnement. Encore, merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux passer un petit peu de temps ici sur Twitch. Bon, en tout cas, je vois que votre passion est toujours la même pour discuter de ce sujet, et c'est tant mieux parce que ça me semble essentiel. Alors, aujourd'hui, il y a deux actualités sur la réforme des retraites. Il y a le fait que, bon, bah, le débat, pour l'instant, c'est fini à l'Assemblée, et puis ça part au Sénat, donc dans une semaine, on l'a vu le 28, grâce à vous, merci Imhotep. Et puis, bien sûr, il y a la rue, il y a les manifestations, il y a les grèves éventuellement. Alors, on en est où? Tout le monde a en tête la journée du 7 mars. Merci Petite Lune à l'instant. Donc les syndicats qui appellent, je vais retrouver les mots exacts d'ailleurs, à mettre la France à l'arrêt, je crois que ce sont les mots officiels du communiqué de l'intersyndicale. Merci Petite Lune pour deuxième mois d'abonnement. Voyons ce qui va se passer dans la rue. Quels sont les espoirs de ce côté? À gauche et dans la rue, la tentation de la radicalité. Souvenir des gilets jaunes en tête, les opposants à la réforme réfléchissent à de nouveaux modes d'action. C'est très important. Souvenir des gilets jaunes en tête, les opposants à la réforme réfléchissent à de nouveaux modes d'action. Pourquoi? Parce que les opposants à la réforme ont vu que les manifestations, même avec des centaines de milliers, mais avec des millions de personnes, ne font pas reculer le gouvernement. Il n'est pas sûr que la journée d'action du 7 mars, avec des grèves importantes, fasse reculer le gouvernement. Alors, ces opposants à la réforme disent, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle nouvelle forme de lutte contre cette réforme? C'est toute la question. Alors ça, j'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que l'interrogation, la réflexion, elle est en cours. Certains s'interrogent, écrit Le Monde, sur la forme que doit prendre le mouvement. Si les rassemblements paisibles, massifs et disciplinés, c'est ce qu'on a eu jusque-là, ont permis de conquérir l'opinion publique et de remporter une première bataille, émerge désormais la crainte que le seul nombre ne fasse pas assez d'ombre au gouvernement et que l'indifférence du pouvoir face aux revendications perdure. Ce qui commence à radicaliser les gens, c'est le patron de la CFTC qui dit ça, Cyril Chabanier, c'est qu'ils ont l'impression que c'est parce que ça se passe bien dans les manifs qu'on n'est pas entendu. Le président de la CFTC, qui est un syndicat qui n'est pas radical, qui est plutôt réformiste, met en avant le sentiment que les gilets jaunes ont gagné un peu parce qu'il y a eu beaucoup de casses. Un précédent souvent évoqué dans les manifestations aujourd'hui. Est-ce que la voie radicale, question que se posent certains, peut mener à, plus facilement, à la victoire contre cette réforme des retraites? Il y a deux visions actuellement au sein de la gauche, nous dit Le Monde. Il y a ceux qui sont sûrs déjà que le président Macron ne bougera pas, et puis il y a ceux qui espèrent encore. Et de ce côté, eh bien, se pose la question de nouveaux modes opératoires. Voilà. A priori, pas les syndicats, même si ces derniers ont lancé une sorte d'ultimatum au gouvernement français, j'ai retrouvé les termes du communiqué, c'est ce que je vous disais, en menaçant de mettre la France à l'arrêt, ce sera le 7 mars. Si la réforme est maintenue en l'état, voilà. Si l'intersyndicale n'utilise pas le mot blocage, elle assume être prête à durcir le mouvement dans tous les secteurs. Donc il y a, vous l'avez compris, deux formes de durcissement du mouvement, ou un durcissement en mode violence, comme l'ont fait une frange, une partie des gilets jaunes, et pas tous, et puis un durcissement au niveau des actions syndicales avec des grèves fortes, des grèves reconductibles. Voilà, ça c'est toute la question. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a une réflexion actuellement au sein des opposants à cette réforme. Voilà. Vous en pensez quoi? Tidalev nous propose un sondage de savoir qui est le pourcentage des gens ici qui sont pour ou contre cette réforme. Tidalev, tu ne viens pas souvent, mais on l'a fait 1000 fois ce sondage. Donc je ne vais pas le faire tous les jours. Sache, en gros, on est sur les mêmes ordres de grandeur qu'au niveau des sondages nationaux. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 65, 70, 75% de viewers qui sont opposés à cette réforme des retraites. On l'a fait déjà plein de fois, je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Alors on le refera peut-être dans quelques jours ou quelques semaines parce qu'on n'a pas fini ce débat. Merci Cortaf, c'est très gentil pour le message. Merci à toi. Alors, mais pas de soucis, Tidadev, t'excuses pas. Tidadev qui vient peut-être pas souvent, ou qui est peut-être là une première fois, nous dit pardon, mais tu peux pas savoir. Bon, enfin, globalement, les viewers ici sont. On retrouve à peu près les résultats au niveau national de viewers. Pour une grande majorité opposée à cette réforme. Je vous lis. Hein. Ah, il y a Harry Lundra qui est en pleine forme. Stream gauchiste normal. Salut Harry Lundra, merci pour l'utilisation de cette jolie expression. C'est toujours sympa de discuter. Alors. Bon, on verra. Ce qui va se passer. El Giganto, il n'y a rien de pire qu'une colère sourde qui couve, et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec cette réforme. Si dans les jours prochains, il y a un durcissement du mouvement contre la réforme des retraites, venant des syndicats, ou venant de la rue, avec un mouvement qui serait hors syndicat, hors organisation, type gilet jaune, voilà, avec, pour une partie de ces participants, de la violence, comme on a pu le voir avec une partie des gilets jaunes, eh bien, vous vous rappellerez peut-être que cette réflexion, en fait, elle est là depuis un petit moment, quoi. Voilà, on va voir. Mon épouse m'a invité à aller déjeuner. Je triche un peu. Ne dites rien. Non, j'espère qu'Hélène ne regarde pas ce stream. Juste rapidement, je vous signale que samedi, la une du Parisien était passionnante aussi. Voilà, je vais manquer un petit peu de temps pour tout vous lire, mais je me dépêche pour vous dire que samedi, le Parisien consacre sa une au faussaire de l'histoire, au fait qu'il y a de plus en plus de jeunes, et c'est bien d'ailleurs, hein, qui servent d'internet pour leurs révisions, notamment sur les questions d'histoire. Ils vont sur internet, ils vont sur YouTube, ils vont parfois aussi sur Twitter et sur TikTok. Bon, et en vrai, c'est bien. Certains profs disent, mais oui, emparez-vous des nouveaux médias aussi, des nouveaux outils pour travailler, pour approfondir, réviser. Le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne travaillent pas très, très sérieusement sur les réseaux sociaux, les faussaires de l'histoire. Le Parisien, dossier hyper intéressant que je vous signale, que vous pouvez lire et télécharger, c'est le Parisien de samedi. Les ados se précipitent sur YouTube, sur TikTok pour réviser en vidéo. Certains comptes à succès déforment les faits historiques par incompétence, hein, par idéologie ou complotisme. C'est plutôt bien fait. Je vous résume le dossier tel que je l'ai compris. Voilà. Mais c'est à lire dans le Parisien si ça vous intéresse, notamment les étudiants et les enseignants qui sont présents ce matin. Je vous résume le dossier. En fait, il y a des pseudo-historiens, comme cette jeune femme par exemple, qui raconte juste n'importe quoi sur l'histoire. La jeune femme que vous voyez là, je sais plus comment elle s'appelle, elle dit par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit une Française, je crois que c'est une anglo-saxonne, elle dit par exemple, mais en fait, la civilisation romaine, ça n'a pas existé. Hein. Les Romains, tout ça, c'est des conneries. En fait, on n'a aucune preuve de la civilisation, de l'existence de la civilisation romaine. C'est fake. Zéro, en fait. Elle n'a pas existé. Bon, les historiens disent, mais si. C'est sans doute une des civilisations humaines les plus documentées. On a 1 milliard de preuves, quoi. Mais elle, sur son petit compte TikTok, je crois, elle dit le contraire. Voilà. Donc, ça existe. En gros, en matière d'histoire, sur les réseaux sociaux et sur Internet, il y a de la... Pardon pour les termes, hein, pardon. Il y a de la merde, quoi. Voilà. Il y a des trucs... mais c'est minoritaire. Voilà. Parfois, c'est parce que c'est des gens qui sont juste pour... pas au top du top, tu vois, donc qui manque un peu de rigueur dans leur façon de collecter les infos. Parfois, c'est un peu plus vicieux et c'est connoté parfois, comment dire, d'idéologie, parfois d'extrême droite, par exemple. Parfois, c'est même carrément complotiste et parfois, c'est juste parce que c'est ni fait ni à faire et que c'est mal fait. Voilà. Alors après, ces contenus sont plutôt minoritaires, mais il se peut qu'un jeune ou un étudiant, voilà, puisse un peu par hasard tomber sur ce genre de contenu dans la préparation d'un devoir. Et c'est comme ça qu'il se retrouve, voilà... au pire avec une mauvaise note, au mieux avec une mauvaise note, et au pire avec une vision totalement naze et faussée de l'histoire qui ne va pas lui rendre service dans la suite de ses études, quoi. Donc voilà, prudence, hein. Internet, c'est un magnifique univers et de magnifiques outils, mais encore faut-il savoir s'en servir. C'est comme en matière d'information. Aujourd'hui, tout le monde est devenu un émetteur d'information. Le Monde, le journal, est un émetteur d'information. Roger Zagou, comment je pourrais l'appeler, je cherche un pseudo, je vais l'appeler Roger Lafrite. Roger Lafrite est aussi émetteur d'infos, voilà, tous deux ont peut-être un avis sur la guerre en Ukraine. Bon, il se trouve que parfois le travail de la rédaction du Monde peut avoir un peu plus de rigueur que le travail de Roger Lafrite sur la guerre en Ukraine. Donc deux émetteurs d'infos. Après, il faut essayer, quand vous êtes face à une info, de voir d'où vient l'info, qui produit l'info. Voilà. Quelle est la réputation de cet émetteur d'infos? Quelle est sa rigueur? Voilà. Est-ce qu'il a déjà été pris la main dans le pot à confiture en train de raconter que des conneries? Bon, ce travail, c'est vrai pour l'info, c'est vrai pour l'histoire aussi. Magnifique conclusion. Mais c'est pas terminé puisqu'on va faire un raid, bien sûr. Je voulais vous remercier parce que j'ai passé un super moment avec vous. Voilà. On n'avait pas 1000 infos, mais on avait des infos essentielles, notamment les 1 an de la guerre en Ukraine, c'est vendredi prochain, la réforme des retraites, des petites choses aussi. Et puis on s'est félicité grâce à vous aussi du titre mondial en biathlon, l'équipe homme. Et ça, c'est grâce à vous parce que ça m'était passé un petit peu sous les radars. Voilà. Donc merci pour ce matin. Vous êtes super nombreux. Waouh! Ah oui, ça me fait plaisir. Bah, on va en profiter pour faire un joli raid, c'est-à-dire qu'on va aller éclairer le travail d'un streamer, d'une streameuse qui est en live actuellement, voilà, et on va basculer sur une autre chaîne pour lui faire un petit peu de publicité, lui donner un petit coup de main. Donc, me proposez pas forcément les copains, les gros streamers, les grosses streameuses qui ont déjà des grosses communautés, des grosses audiences, puis qui n'ont pas forcément besoin de notre aide, même si je vois des copains là qui sont en live, qui font des choses sympas. Plutôt des petites découvertes, hein. Je vous mets 2 minutes de pause, le temps de trouver la destination à partir de vos propositions. 2 minutes de je vous remets la musique qu'on a commencé à écouter tout à l'heure qui était bien cool. 2 minutes de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et dans 2 minutes, un raid tous ensemble. Et juste après, je vous souhaiterai un bon dimanche. A tout de suite. Alors, on va où ? J'ai trouvé et on raid dans 20 secondes. À la destination de raid grâce à vous. Ouh, ça me fait plaisir, c'est très joli ce que je vois. Je vois 58 viewers seulement et ça mérite bien plus, c'est beau et ça met en appétit, je n'en dis pas plus. Je suis en train de charger le raid, je sais qu'on a reçu un raid à l'instant, merci pour le raid il y a quelques secondes. Nous-mêmes on est en fin de stream, eh ben, c'est pas perdu puisqu'on va re-raid du coup. Hop, ça charge. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite un super joli dimanche. La semaine prochaine, je vais être en stream quasiment tous les matins. Et puis une hebdo Étienne, magnifique vendredi avec l'ami Ponce, avec l'ami Jean Massier, avec l'ami Constance Villanova. Ça, c'est vendredi soir. On va se retrouver quasiment tous les matins avant une petite semaine de vacances en famille. Merci d'avoir été là ce matin. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux. C'est là que j'annonce un petit peu quand je stream, notamment sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok depuis peu. Et puis, n'hésitez pas à activer les notifications sur cette chaîne et à la follow pour être prévenu du quand je stream. On va vers la cuisine. On va se régaler. Ça a l'air bon. Ça a l'air beau. C'est ChefJM. Chef_JM. C'est parti pour le raid. Je vous dis à demain matin et merci pour tout. Je me suis régalé et merci encore pour tous les soutiens et pour tous les subs. Ciao, ciao. C'est vachement bon ça. Ça a l'air bien cool. C'est parti pour le raid. Bye.